Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Vous écoutez les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Flavien et c'est ma première dans les Jeux du Mois de cette saison 15. Et comme on le dit souvent à la fin des émissions précédentes, c'est un tout nouveau duo. Parce que pour m'accompagner pour ce mois d'octobre, je suis accompagné de quelqu'un que vous avez entendu déjà hein, normalement. Au moment où on l'enregistre, vous ne l'avez pas encore entendu dans les chroniques, mais normalement au moment où vous écoutez cette émission, vous l'avez entendu. Il s'agit de Kurtz. Salut Kurtz.
Salut Flavien.
La forme ?
Bien et toi ?
Très bien, écoute, tu commences fort quand même, c'est audacieux pour des gens qui arrivent comme ça de dire « Bah vas-y, moi je fais le jeu du mois d'octobre. »
C'est parti.
C'est bien.
Prêt à se lancer dans le bain, y a pas de souci.
Ouais, non, mais parce que des fois c'est des formats qui peuvent un peu intimider, des formats un peu de type critique, review ou quoi, et où des fois on se dit « Non, mais je les ferai plus tard dans la saison, là je fais ma chronique déjà les 6 premiers mois, et puis après je verrai si je fais d'autres émissions. » Mais non, écoute, parfait, je suis ravi de te recevoir dans ce format que tu écoutais déjà.
Absolument, oui, puis moi je suis ravi d'être ici, de découvrir les coulisses.
Les coulisses. Donc dans les commentaires, tu sais, on fait ça des fois sur Twitch, faites des grands clap-clap pour Kurtz, voilà. À chaque fois que vous entendez un nouveau chroniqueur, vous faites des grands clap-clap dans les commentaires en disant « Bienvenue, bienvenue !» Et voilà, et ça met la bonne ambiance.
Eh ben écoute, j'ai hâte.
Et en plus, c'est une spéciale, parce que la dernière fois, moi, quand j'ai fait les jeux du mois, ça devait être avec Benoît FX. Et on avait fait un double Paolo Mori, parce que j'avais parlé du match du siècle, et lui avait parlé de Captain Flip, où il est accompagné de Remo Consadori, mais voilà, donc double Paolo Mori. Et là, on va parler de deux jeux d'un même éditeur.
Double Lumberjacks.
Ouais, qui en plus, coup de chance, parce que franchement, sinon moi, Lumberjacks, c'est pas un éditeur que je suis vraiment, tu vois, c'est pas, je sais pas, il y a des éditeurs comme ça où je me dis, je vais quand même faire gaffe à ce qu'ils sortent et tout. Moi, je sais qu'il y a plusieurs de leurs jeux qui me laissent un peu indifférent et tout. Et là, bah du coup, tu vois, au début, en préparant, j'avais même pas fait gaffe, mais je sais pas si c'est déjà arrivé. Dans les jeux du mois.
Je ne sais pas.
Ma mémoire me fait défaut, on vous attend dans les commentaires pour nous le dire. mais avant de parler de tout ça, donc on parlera, toi tu parleras de Solstice.
De Solstice.
Qui est sorti en début d'année dans une nouvelle gamme, dont tu parleras peut-être aussi un petit peu. Et moi je parlerai de Fil Rouge, lui aussi qui inaugure, de Fil Rouge, l'ombre du tigre. Voilà, qui inaugure lui aussi une nouvelle gamme, mais une gamme qui s'appelle Fil Rouge. Voilà, c'est sera toujours le même jeu.
C'est pratique pour s'en souvenir.
Mais avant, tu vas te plier au fameux exercice, l'exercice du remerciement, et c'est là que les gens vont te juger sur la prononciation.
Eh bien, tout à fait. Donc, nous remercions nos donatrices et nos donateurs qui nous aident à réaliser ce podcast, qui sont Alès, Catroy, Deckmoon, El Piero 50, Gaume, Gnocchi Flet, Jimmy Celtics 95, Joël, Johan, Laurent 36, Nox, Pauvle, Raduris, Rétroéphi et Strugarek, et je m'excuse si j'ai écorché des noms.
C'est pas grave, ça leur apprendra. Ils avaient qu'à avoir un pseudo plus facile. Donc merci évidemment à vous, comme toujours, hein, si jamais vous voulez soutenir le podcast, ça peut être pour notamment du matériel, pour les personnes qui arrivent, qui n'ont pas forcément du matériel de podcast, parce que c'est pas un critère à l'entrée dans Proxy Jeux, c'est tu ne rentreras pas si tu n'as pas un micro Rode à 500 balles, non. Donc voilà, ça fait partie des choses qui permettent d'être financées justement par vos dons, donc merci évidemment, c'est par PayPal ou par virement, par PayPal c'est sur le site, par virement vous nous contactez. Et on remercie aussi la Caverne du Gobelin, qui est notre partenaire, Caverne du Gobelin, 6 boutiques toujours, Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt, avec leurs petits cafés-jeux dans lesquels doivent avoir lieu en ce moment des tournois d'Alter, j'imagine, et de je ne sais quel JCC. Mais c'est aussi, hein, et peut-être surtout, aller plutôt dans les boutiques en physique, mais c'est aussi une boutique de vente de jeux de société en ligne, vous trouvez ça sur cavernedugobelin.com.
Et on notera qu'ils n'ont pas profité des grandes vacances pour étendre leur empire, pas de nouvelles boutiques.
Non. Pas encore, pas encore. Peut-être qu'ils ont profité des vacances pour perfectionner leur site, mais c'est pas dit non plus. le petit retour sur les commentaires aussi, hein, là aussi un petit rituel auquel tu vas commencer à te plier.
Voilà, donc généralement pour l'ensemble des émissions précédentes, dans les commentaires, un plaisir vis-à-vis de l'alchimie du duo. C'était Elodie et Cyrus, voilà, sur Elodie, c'était Penguin Party et Cyrus, c'était Littoral. Donc plus spécifiquement sur Penguin Party, Elodie avait émis un doute sur la version Game of Thrones précédente qui était sortie de ce jeu. J'ai apporté une petite précision comme quoi les couleurs des cartes correspondaient au clan dans la série télé.
Ah, yes, yes.
Voilà, c'était très léger comme apport, et puis on avait remarqué, elle et moi, que la thématique du jeu n'avait absolument aucune espèce d'importance.
Ouais.
Voilà.
Moi, je trouve
Mais
quand même
les
que ça forme la pyramide du pouvoir, et que celui tout en haut, alors on s'en fout en vrai, mais tu vois, celui tout en haut, c'est peut-être celui qui règne sur Westeros.
Ah, peut-être, et vis-à-vis des
Tu vois, et qui écrase les autres en plus, tu vois,
et
donc
qui
c'est bien.
écrase les autres. Et vis-à-vis des pingouins, la pyramide du pouvoir s'applique aussi, peut-être. Pourquoi
Allez,
pas? Pourquoi
peut-être.
pas?
Peut-être.
Pourquoi pas? Et Delotte apporte des précisions sur la différence entre pingouin et manchot et vis-à-vis de la confusion entre les noms. Je vous invite à aller consulter le commentaire si vous voulez plus de précisions.
Concernant le littoral, qui donc était présenté par Cyrus, il y a Sam de Grenoble qui rejoint sur le côté du plaisir du partage. Tu sais, Cyrus parlait beaucoup de l'aspect convivial qui était à la fois dans la mise en scène, dans la simplicité du jeu et également dans le matériel et tout. Et que ça faisait un jeu vraiment chaleureux. Donc il le rejoignait sur tout ça, sur le côté stop ou encore aussi, mais qu'il trouvait toujours inférieur à par exemple Diamant, qui pour lui est supérieur en stop ou encore. Elodie d'ailleurs je crois avait répondu en disant que ouais, elle aussi elle aimait beaucoup Diamant, notamment par la thématique et la manière dont c'était retranscrit dans le jeu.
Moi aussi, j'aime beaucoup Diamant.
Ouais, ben moi aussi, hein. Qui n'aime pas Diamant? Dites-le dans
Qui
les
n'aime pas
commentaires.
Diamant? Je peux pas comparer, j'ai pas eu l'occasion de tester Littoral encore, mais.
Il y a des gens qui aiment pas Diamant, et ces gens, c'est les gens qui sont pas contents parce que la dernière édition est plus inclusive et que, oh là là, mais c'est pas réaliste. Et que vraiment, voilà, ils ont mis des personnages noirs ou féminins juste pour vendre. Voilà. Ça, ces gens-là n'aiment plus Diamant. Peut-être qu'ils aimaient Diamant quand c'était un
Quelle
truc,
horreur, le jeu est inclusif. Oui, tout à fait.
Ouais. Bah ouais. Bah écoutez, ce podcast ne s'adresse pas à vous. et El Pierrot a été convaincu par Cyrus, alors qu'avant c'était Elodie qui, en fin d'année dernière, l'avait poussé à l'acquisition de Rebelle Princesse. Et il précise, El Pierrot, que quand même, Elodie disait, oui, Vincent Dutray sera ma dernière chronique et tout, ce sera le moment, hein, si vous entendez sur Dutray, vous saurez que je m'en vais. Il attend quand même ça, si possible que ce soit pas la dernière, parce qu'il aime bien sa chronique, mais voilà, parce qu'il est très curieux, évidemment, de la multiple, des multiples productions de Vincent Dutray, et illustrateur prolifique.
Très
On peut le
prolifique.
dire. Très bien. Et ben voilà, merci pour vos commentaires. On les attend maintenant sur cette émission aussi, mais on va maintenant pouvoir passer au premier jeu et tu vas nous parler de Solstice.
Pour commencer, la traditionnelle petite fiche signalétique. Donc, les auteurs du jeu sont Bruno Catala et Corentin Lebras, qu'on n'a plus besoin de présenter normalement. Aux illustrations, il s'agit de Gorobei. Donc, c'est un illustrateur français que je ne connaissais pas, qui a officié sur des jeux plutôt jeunesse du genre Kuala ou Chat de poche, ou des BD jeunesse du genre Dofus ou Lolicorne. L'éditeur, c'est Lumberjacks, comme on l'avait dit plus tôt. Le localisateur, c'est Blackrock. C'est un jeu pour deux joueurs et joueuses exclusivement, avec une petite pondération, Bruno Catala a produit une version solo sur son YouTube. On vous mettra le lien dans le billet si vous souhaitez aller jeter un œil. Le jeu est pour 8 ans et plus, pour des parties de 15 minutes. Pour les parties physiques, 15 minutes. En dématérialisé, ça peut être beaucoup plus court. Le jeu est vendu à 13,90€ chez notre sponsor La Caverne du Gobelin. Et il est fabriqué en Chine. Pour moi, le contexte de ce jeu, je l'ai acheté un petit peu par hasard en visitant ma boutique de jeux habituelle, juste au vu petite boîte que j'ai trouvée très mignonne, en la retournant quelques lignes d'explication, pas beaucoup de détails, et je me suis dit, pourquoi pas, elle est pas chère, ça se tente.
Argument du prix, toujours.
Argument du prix et de la taille de la boîte, c'est important.
Au moins, si c'est nul, bon, tu fais partie des gens qui revendent leurs jeux?
Non, je ne fais pas partie des gens qui revendent les jeux, j'en ai une collection monstrueuse qui s'empile.
Mais bon, au pire, du coup, c'est une petite boîte, ça prend pas beaucoup de place et c'est pas cher, donc tu seras pas ruiné.
Et coup de chance, c'est un bon jeu, donc je n'ai pas été déçu de mon achat. Le principe du jeu, donc, on va explorer un paysage de montagne, et ce qui est important, c'est un seul paysage. Pour les deux joueurs, il va falloir capturer des tuiles, allumer des feux, et on rencontrera les esprits de la montagne.
Il y a Johnny Hallyday en goodie, non? Pour allumer les feux, non?
Eh ben, ce jeu n'a pas de goodie, malheureusement. Je suis très très triste à ce niveau-là. Moi qui ai une grande passion pour les goodies. Voilà, le jeu se base sur le principe de l'Anafuda. Donc si tu veux bien, Flavien, nous faire une petite explication rapide en deux mots.
Alors, je suis pas un expert du tout. Moi, c'est Pionfesseur qui m'a appris le Koi Koi, qui est, en fait, le Anafuda est un, je crois, enfin, il y a des decks de Anafuda, donc, qui est un truc, un jeu japonais, si je dis pas de bêtises, et du 18e siècle. Et en fait, le Anafuda, là, c'est sur le système de prise que c'est basé dessus. C'est-à-dire que si je me rappelle bien, mais préciser en commentaire, en gros, il y a un truc où tu révèles un bidule, enfin une carte quoi, qui va avoir certains symboles, et je crois que les cartes vont, il y a toujours deux éléments dessus sur le Hanafuda, tu vois, il y a ce qu'il y a, l'illustration au fond, qui peut-être est la saison, et puis l'item qui est par-dessus la saison, et il me semble que tu le mets dans une rivière, et après tu prends, si tu as un élément similaire dans cette rivière, tu prends les deux, que tu rajoutes à ta collection, et sinon tu révèles une autre carte qui, si elle a le symbole de la carte que t'as proposée ou plus, ça je sais plus, mais ça te permet quand même de récupérer ça. Ce qui est rigolo, c'est que là, c'est plutôt donc la mécanique de prise du koi koi.
C'est ça, en fait. On a des tuiles en main qui ont... Enfin, le jeu est composé de tuiles qui ont à la fois une couleur et une valeur. On commence avec trois tuiles en main, on en joue une. Et si dans la rivière, il y a une tuile qui a ou la valeur ou la couleur, ou plusieurs, on fait son choix, on l'ajoute à sa collection. Sa collection étant son paysage. Et le paysage va évoluer comme ça, en fait. Et si on ne peut rien jouer, on a toujours une possibilité d'avoir une deuxième chance, voire une troisième chance. Et à la fin, en fait, il y a une petite salade de points qui permet, avec la plus grande zone de jeu, si on a allumé des feux, les feux, c'est ceux qui sont en haut de la montagne, et le nombre d'esprits rencontrés, on va marquer un certain nombre de points. Celui qui a le plus de points l'emporte. Voilà. Et puis les esprits marquent potentiellement des points en fonction de, soit ils ont un petit effet tout de suite, soit ils marquent des points à la fin. Le calcul des points n'est pas très compliqué.
Non.
Voilà, donc la petite critique rapide du jeu. Donc les parties sont rapides. Donc comme je disais précédemment, une quinzaine de minutes pour le jeu en physique en comptant la mise en place et le rangement de la boîte. Beaucoup moins si on y joue en dématérialisé car le jeu est disponible sur BGA.
Moi je l'avais découvert sur BGA quand il était sorti. Oui. Tu sais, ça fait partie de ces jeux qui sont sortis, doit être sorti à peu près en même temps que Chat Poche. Toi, du coup, tu l'as découvert d'abord en boîte, tu disais.
D'abord en boîte, et une fois que... Et au dos de la boîte, il est indiqué, ce qui se fait de plus en plus, le jeu existe sur BGA. Donc,
okay.
J'ai voulu aller jeter un œil, et puis c'est toujours pratique d'avoir envie d'une petite pause et de se faire une petite partie de 5 minutes, comme ça, voilà, on commence, on joue, on finit, on passe à autre chose. C'est toujours agréable. Le jeu demande un petit peu de planification, un petit peu, hein, j'entends bien, ça va vraiment être en fonction de ce qu'on a en main et de ce qu'il y a disponible, et un petit peu d'interaction quand même, parce qu'il va s'offrir un choix, en fait, en fonction de ce que l'adversaire a fait. Alors, est-ce que je cherche à vouloir le bloquer, à vouloir le contourner, à ne pas du tout tenir compte de ce qu'il a joué?
Ouais, sur l'interaction, quand même, c'est très propre au jeu à deux, hein, finalement. Enfin, tu vois, il y a des jeux à deux sans aucune interaction ou quoi. C'est plus rare que dans des jeux où, tu sais, on parle de multiplayer solitaire. Là, en fait, l'interaction apparaît plus, je pense, en physique. Moi, j'ai toujours pas eu l'occasion d'y jouer en physique que sur BGA. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais le fait est que sur BGA, tu vois ton plateau, tu vois celui de l'autre, mais t'es quand même très concentré sur le tien. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que chaque carte, chaque tuile, parce que c'est des tuiles, n'est présente qu'une fois, quoi.
Qu'une fois. Et si l'adversaire l'a prise, on peut plus la prendre.
C'est ça.
Après, il y a quand même un système d'arc-en-ciel.
Ouais.
La troisième chance dont je parlais tout à l'heure, si on ne tire rien, puis on ne retire rien, on rattrape un arc-en-ciel qui permet de remplacer n'importe quelle tuile, potentiellement, on peut pallier à ce trou. Mais effectivement, comme tu disais, si l'adversaire a pris le 5 bleu, je ne pourrais pas avoir le 5 bleu, effectivement. Donc, faut en tenir compte dans la légère interaction que propose ce jeu, oui.
Ouais, moi, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, se révèle, parce que tu vois, moi, quand je joue sur BGA, je suis quand même, j'essaye de faire ma grande zone, etc., mais je fais pas tellement gaffe à ce qu'a pris l'autre.
Mmh.
Et du coup, je me dis pas, tu vois, je me laisse des trous qui, en fait, peut-être je pourrais jamais combler sauf arc-en-ciel, alors que je pense qu'en vrai, comme tu vois plus l'autre, t'as peut-être plus tendance à dire ah merde, il me l'a pris, tu vois. Et je sais pas, j'ai le sentiment, en tout cas, avoir à confirmer ou non, moi, en physique, mais que ce truc d'interaction, je le ressentirais plus sur la table, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est léger, mais il y a un petit peu plus d'interaction quand on joue en physique face à une vraie personne. Enfin, face à un adversaire qu'on peut toucher, oui, effectivement. Alors, ne touchez votre adversaire que s'il est d'accord, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ensuite, les esprits apportent un petit peu. C'est léger, mais ça fait un petit twist dans le jeu. On attrape un esprit quand on arrive à faire un carré, donc 4 tuiles, 2 au-dessus, 2 en dessous, qui se touchent, et donc on rattrape un esprit qui permet qui a un petit pouvoir. Donc les pouvoirs, ça va être, comme je disais tout à l'heure, soit de marquer des points à la fin en fonction de certaines conditions, soit un petit bonus tout de suite, rattraper de nouvelles tuiles, ce genre de choses. Alors après, dans ce jeu, certains vont lui opposer un certain manque de rejouabilité, voire un côté répétitif. Alors oui, Effectivement, il y a assez peu de variétés sur les esprits. Il y en a une dizaine, une douzaine, je crois. Une très très forte place au hasard. Forcément, ça va dépendre de ce qu'on a en main et des tuiles qui vont être tirées à la rivière. Mais pas que, parce qu'en fait, deux parties ne seront jamais identiques. Ça va dépendre du style de jeu de l'adversaire. Si l'adversaire joue dans l'interaction, j'ai vu certains adversaires qui décidaient de s'attaquer que au haut de la montagne ou que au bas. Ou que au milieu, ou d'essayer, si je joue dans une certaine zone, de me bloquer d'une certaine façon. Il y en a qui vont pas essayer d'interagir. Après, le tirage, forcément, fera qu'il y aura une rejouabilité. Ce sera pas une rejouabilité de folie, mais pour le moment, moi qui ai fait beaucoup de parties, je suis pas encore lassé.
Moi, ce matin-là, j'ai refait une partie sur Board Game Arena pour un peu, tu vois, l'interaction, c'est déjà effectivement le fait de prendre des trucs que l'autre ne pourra pas avoir, mais il y a aussi la fin de partie, comme elle est déclenchée, je crois en tout cas, elle est déclenchée quand il y a plus de tuiles, c'est ça, ou un truc du genre.
Elle est déclenchée quand plus personne ne peut rien piocher.
Et du coup, en fait, mon adversaire, on a fait un petit score tous les deux, mais ça fait partie de ces jeux où tu t'en fous de faire un gros score. Ce qui est important, c'est que tu fasses plus que l'autre.
Évidemment.
C'est tout. Et on a fait des petits scores, mais parce qu'en fait, alors, c'est ce que tu disais, il y a la chance du tirage et tout. Mais parce qu'il a bien rushé, et en fait, moi, j'étais à une tuile de faire vraiment un truc qui m'aurait apporté pas mal de points des feux. Il a fait son esprit, ce qui lui a permis de refaire un tour, etc. Et donc de vider la pioche, et poum, ça a mis fin à la partie, et ça m'a, je, et tu vois, c'est l'interaction aussi.
C'est l'interaction. Et tu l'as pas vu venir.
Ben, non, après, tu vois, comme dit, au début, c'était les premiers esprits qu'on tirait, on a fait une partie quasiment sans esprit, ce qui est assez rare aussi.
Oui.
Et il a eu la chance de tirer celle qui l'a fait rejouer, etc. Mais la chance se provoque, quoi.
Et tout à fait. Oui. Après, certaines personnes, je pense, surtout au niveau des enfants peut-être, auront un peu de difficulté. Quand on joue sur une table, en fait, l'aire de jeu n'est représentée que virtuellement. Et donc, certaines personnes auront un petit peu de mal à se représenter sans l'aide de la petite carte. Il y a une petite carte qui est fournie dans la boîte qui représente la montagne. Elle est petite, la boîte est petite, donc elle est pliée en deux, elle fait la moitié de la taille de la boîte. Et certains reprocheront d'avoir du mal à visualiser. Sur BGA, il n'y a pas de problème. Virtuellement, on a la montagne en vide qu'on vient remplir au fur et à mesure, mais bonne nouvelle, un lot de deux tapis va sortir, donc ce qui
Mais c'est
permettra
pas un
de...
goodie, ce sera payant.
Ce sera payant, tout à fait, ce sera payant, et d'après ce que j'ai vu de la petite vidéo, sur la boîte sera rappelé les pouvoirs des différents esprits, et chacun aura son tapis pour pouvoir poser ses petites tuiles.
C'est pas facilité en fait en termes de narration, si on veut parler un peu de narration dans le jeu. Parce qu'en fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est une montagne.
Une seule
Et
montagne.
c'est pas logique. Parce qu'on fait deux montagnes quand même, tu vois. Enfin, chacun fait quand même sa montagne. En fait,
C'est vrai.
c'est son trajet sur la montagne. Mais je pense que, notamment pour les plus jeunes, tu vois, en termes de logique, bah, moi j'ai ma montagne, toi t'as ta montagne. Et je pense que ça aide pas aussi à se rendre compte que, ah, comme c'est la même montagne, t'as pris mon 3 bleu, du coup il n'y a plus le 3 bleu parce que c'est la même montagne. Mais après, bon, après, voilà, c'est compliqué de faire vraiment une seule montagne, quoi. Et là-dessus, quand même aussi, en rappel, je trouve que quand même ça s'est plutôt bien fait. Alors j'ai pas eu le jeu, moi, en physique, mais en regardant les images, j'ai quand même rappelé, je crois, sur les différentes tuiles, leur étage.
Oui, sur le côté, en fait, il y a un petit ascenseur qui est dessiné, en fait, avec des tout petits ronds sur le côté, en vide. Et l'étage où on se trouve est noir. C'est un petit rappel qui peut permettre de se situer, de se rappeler que le rouge est en bas, qu'au-dessus, il y a le orange, etc., etc., jusqu'au violet tout en haut. Oui, effectivement.
Il y a pas le même nombre de tuiles pour chaque couleur.
Non,
Ça
non.
fait une montagne, quoi.
Ça
Enfin.
fait une montagne, ça fait une sorte de pyramide un petit peu irrégulière, un triangle, oui.
Et du coup, ça facilite aussi le truc, c'est que le 8 sera toujours au-dessus du 8.
Le 8 sera toujours au-dessus du 8.
Tu vois, il y a pas d'histoire de truc décalé comme dans
Non.
Cat in the Box ou si tu utilises certains côtés. Et je trouve que ça facilite aussi la lisibilité de l'ensemble du plateau, quoi, même si on n'a pas le tapis, quoi.
Non, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc un petit peu bancal où le sommet ne fait que 4 tuiles, les tuiles sont 4, 5, 6, 7. Ils auraient pu faire 1, 2, 3, 4, ce qui aurait été hyper pénible à poser au-dessus des tuiles qui ont un numéro différent.
Ouais.
Et là, le 4 est au-dessus du 4, qui est au-dessus du 4, qui est au-dessus du 4, jusqu'à la base.
Ouais, et
Ouais.
puis tu vois, il y a pas comme dans Penguin Party, enfin tu poses dessus et d'ailleurs t'as même pas besoin de poser sur quoi que ce soit et ça évite le côté, tu sais, dans Penguin Party t'avais justement les cartes qui chevauchaient et bon, il y a pas de notion d'ordre des cartes dans Penguin Party, mais là si ça avait été le cas, tu vois, si le 1 devait reposer sur le 1 et le 2 par exemple, le 1 de la deuxième ligne sur le 1 et le 2, eh ben en fait ça décale tout et c'est beaucoup moins lisible.
Ce serait injouable, oui, effectivement. Oui. Voilà, donc le jeu tient dans une toute petite boîte qui, malgré tout, contient un peu de vide. Ce qui, moi, à chaque fois que j'ouvre une boîte de jeu qui contient 25% de vide, j'ai un petit spasme au coin de la bouche, je vais pas vous mentir, et une envie de sortir la hache. Mais bon, on refera pas les éditeurs de jeu. Je suis pas sûr que le jeu tienne sur une tablette d'avion quand on veut jouer à deux. Pour vous situer un petit peu la taille du... Ça tiendra sur une tablette de train, vous savez, quand on est deux à deux face à face, là ça tient. Sur une tablette d'avion, je pense pas.
C'est une nouvelle gamme qu'ils font, donc ils ont fait chat de poche aussi dedans. Ils en ont fait d'autres ou pas, je sais plus.
Je saurais pas te dire là comme ça.
Je trouve moi Solstice super. T'as joué à chat de poche ou pas?
Non.
Sur BGA, non.
Non.
Qui a aussi des illustrations de Gorobei, il y a plein d'illustrateurs, je crois, et illustratrices dans chat de poche. C'est une nouvelle gamme qu'ils ont lancée. Ça va dans la logique en fait de certains trucs d'éditeurs récents où on essaye, tu vois, Sea Salt and Pepper à ça aussi.
Sea Salt and Pepper, les Wank Games, etc. Oui, toute cette gamme de petits jeux.
Bon, les Run Games, c'est depuis le début, mais même chez les éditeurs qui avant avaient l'espèce de discours à la con de non, non, mais il faut faire une boîte format, je sais pas, Citadel ou quoi. Parce que, on voit qu'il y a des games qui se créent et qui ont des boîtes un peu plus honnêtes. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Indépendamment de la qualité du jeu, quoi. Mais... Et Gorobei était effectivement sur Pocket Cats aussi. Hein.
Ah bah je jetterai un œil.
Le jeu n'est pas très bien.
Ah bah donc dans ce cas je jetterai un œil sur BGA. Voilà donc mon avis final pour ce jeu, pour Solstice, c'est qu'il est agréable et malin. Les parties sont courtes et décontractées.
Et pour les esprits, il y en a qui t'ont marqué un peu comme ça, parce que moi, je t'avoue que c'est, tu vois, tu l'as énoncé comme éventuellement un point faible. Moi, je trouve le jeu, c'est ok. C'était une bonne surprise. C'est pas un jeu dont je vais me rappeler ou quoi. Mais je t'avoue que les esprits, je les trouve nuls, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il manque de personnalité. Qu'en plus, t'en as qui font un peu du scoring, tu sais, qui disent un point par esprit de telle couleur.
Oui, celui-là, quand on le tire en premier, c'est un peu... Oui, super, ouais, effectivement. Alors, il y a quelques esprits. Moi, j'aime beaucoup la libellule, par exemple. Elle fait qu'on pique une tuile dans la main de l'adversaire.
Ouais.
Et il faut savoir que des fois, on se garde des tuiles pour plus tard. Eh bah ça, c'est toujours un petit twist agréable, même si le twist est très galvaudé. Après, il faut savoir que sur BGA, il y a un esprit qui n'est jamais utilisé, qui est présent dans la boîte, c'est le mauvais esprit.
Ah oui, si c'est, je crois que tu peux le mettre en variante, mais
On peut le mettre en
effectivement.
variante. Ah bah celui-là, moi je l'ai jamais eu en version BGA.
Ouais, je crois que c'est un truc à la con un peu, hein, parce que franchement, enfin, le jeu se prête pas trop. C'est quoi son fonctionnement encore?
Quand tu tires deux esprits, si tu tires le mauvais esprit, t'es obligé de le garder. L'autre, tu la défausses, tu la mets dans la rivière des esprits. Tu le gardes devant toi. Lorsque la prochaine fois que tu tireras l'esprit, tu tires deux esprits, mais tu donnes le mauvais esprit à ton adversaire. Etc., etc. On se repasse les esprits comme ça. Celui qui, à la fin, a le mauvais esprit devant lui, son adversaire choisit quel esprit il ne pourra pas scorer. Ça peut faire une petite différence. Ça peut faire perdre 3-4 points sur la fin. Bon. Ah, c'est léger, mais ça apporte un petit...
Je trouvais que c'était du Texas un peu gratos. Et ouais, tu vois, là, je les re-regarde en illustration. Et moi, il y en a un, je crois que j'aime bien. Est-ce qu'il existe? Ouais, c'est celui qui te donne des points pour feu non allumé. La coccinelle, ça doit être.
La coccinelle, oui, tout
Ouais.
à fait.
Parce qu'elle est un peu paradoxale, en fait. Mais en même temps, tu peux y commencer dès le début. En fait, il y a certains esprits, je trouve, où tu peux commencer à élaborer des stratégies en espérant les piocher, ouais.
Autour de ces esprits-là, oui. Le loup, par exemple, il permet de marquer un point par zone.
Ah oui, c'est ça. Et celui-là, il s'oppose en fait à ton scoring de base, c'est rigolo aussi, quoi.
Il s'oppose, donc on va marquer un point par tuile de sa plus grande zone. Mais à côté, si on a une tuile toute seule, deux tuiles, une autre tuile toute seule, eh ben on marquera un point par petite zone. Ce qui peut rajouter tout de suite 4-5 points, effectivement, et faire une petite différence.
Ouais, mine de rien, tu vois, qu'on ne t'arrive pas à voir, tu parlais du tirage. Franchement, moi, je trouve, en termes d'aléas, tu parlais, tu sais, de mauvais tirage ou quoi, je trouve vraiment que c'est un jeu quand même qui a pas mal de contrôle et que,
Oui.
justement, tu sais, en plus, parfois, tu peux volontairement choisir de jouer une carte qui n'a aucune correspondance alors que t'en as dans ta main, parce que ce que tu recherches, c'est déjà, tu n'as pas forcément envie de la rendre disponible ou quoi, ou bien tu veux te la rendre disponible pour plus tard et puis tu as l'espoir que la tuile au hasard que tu pioches, surtout si la pioche est déjà bien vide, ce soit un truc qui vraiment est bien. Et je trouve, vu le format du jeu, moi je sais quoi, c'est vraiment pas ça qui m'a posé souci dans le jeu, l'espace de choix et le côté contrôle et aléa quoi. Mais par contre les esprits, ouais, moi c'est plus les esprits que je trouve un peu faibles. Et il y en a beaucoup qui sont très dispensables et qui manquent un peu d'identité, notamment je trouve ceux qui ont des effets immédiats, je les
Ah, je
trouve pas
sais pas.
super
Moi, je
excitants moi.
trouve que les effets immédiats, la plupart du temps, ils permettent quand même de récupérer une nouvelle tuile. Ça peut faire une différence ou faire une jonction ou voilà. Bon après, on n'a pas forcément non plus un contrôle sur la tuile qu'on récupère. Ça rajoute un côté aléatoire. Donc voilà.
Et les illustrations, t'en penses quoi de Gorobei, ouais?
Je les apprécie. Vraiment, ça a été un élément déclencheur. Mon œil a été attiré par ça dans la boutique. Ah, tiens, c'est mignon. Et puis Oui, le devant est beau. Quand on retourne, les tuiles, le petit visuel qu'on a sur les tuiles sont sympas. Et puis, une fois qu'on a les tuiles devant soi, chaque petite tuile a quand même un petit quelque chose. Après, au bout d'une poignée de parties, on va pas forcément s'y repencher pour les regarder une par une. Je pense que c'est comme King Domino à ce niveau-là. Mais chaque petite tuile apporte un petit quelque chose qui est agréable, oui.
Ouais, et puis alors, il y a un truc, moi j'aime beaucoup les trucs où tu crées un paysage,
Oui.
tu vois, et là, c'est le cas. Et franchement, enfin, il y a des photos où on voit tout le paysage, et je trouve ça super stylé. Et notamment, vous verrez le neuf vert avec une petite référence à l'éditeur en question, et je suis sûr qu'il y a d'autres références peut-être à d'autres jeux de l'éditeur, peut-être. Je sais pas, j'ai pas regardé plus que ça, mais je pense. Si, si, il y a une référence à Trek 12 aussi. Je regarde là en zoomant beaucoup. Le truc, c'est que effectivement. La réalité du jeu, c'est que comme tu fais ta propre montagne, il y a des trous et donc le paysage, il est pas entier, quoi. Mais les petits bouts que tu crées par adjacence, c'est quand même satisfaisant.
Oui, c'est toujours sympa de dire, alors là, j'ai le bas de mon arbre, hop, je viens mettre le haut de mon arbre à
Ouais,
côté,
ouais.
et là, j'ai la pierre qui est adjacente, ça vient coller. C'est vrai que c'est sympa,
T'as
oui.
le plaisir du puzzle, en fait, un peu.
Exactement, du puzzle, ouais.
Ouais, et puis en termes de, je parlais de narration tout à l'heure par rapport au fait qu'il y ait de montagnes et tout. Par contre, bah le scoring des feux. Et assez logique aussi, tu vois, en termes de, ça ne marche que si tu as réussi à partir du bas.
À partir du bas et aller au sommet de la montagne, oui.
C'est ça, et donc tu as pu allumer ces feux-là. Et du coup, ça a du sens. Après, par contre, l'adjacence de la plus grande zone, j'arrive pas à trouver de sens. Parce que du coup, t'es pas obligé de partir du bas, donc.
T'es pas obligé de partir du bas, et puis c'est ce que tu disais, si tu veux faire une petite narration par rapport à un enfant, par exemple, ça va pas être le trajet de, c'est pas logique que tu commences en bas à droite, puis que la suivante tu la poses en haut à gauche, puis que celle d'après tu la mettes au milieu.
Oui.
Par rapport à ton trajet, c'est pas logique. Mais bon, ça aurait été compliqué de toute façon de faire un jeu autrement que comme ça, mais voilà.
Et quand même, Catala, ce qui est rigolo, c'est que là, enfin, il est pas tout seul, il est avec Corentin Lebras. Mais c'est rigolo parce qu'avec Théorie Verte, t'as joué à Seasalt, ouais.
Bien sûr, oui.
Donc la mécanique de dernière chance, tu sais, ça aussi, c'est emprunté au Hanafuda.
Oui.
Et sauf que c'est pas le même élément du Hanafuda qui a été emprunté. Tu vois qu'il puise son inspiration, c'est une patte de Catala, puisée
Bien sûr, oui.
dans les jeux tradis, mais tu la retrouves ici et c'est drôle que dans deux jeux aussi proches, il a dit ah, tiens là je vais faire ça. Alors après c'est peut-être Théo Rivière et Corentin Lebras qui ont apporté ces idées, mais je pense que c'est Catala en vrai.
On sait jamais qui a fait quoi dans les jeux en coautorat comme ça, mais oui, effectivement, de retrouver cette inspiration au même endroit pour deux jeux aussi différents, oui.
Ok, bah écoute, merci pour avoir parlé de Solstice.
L'affiche signalétique sur Solstice, donc c'est un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras, illustré par Gorobei, édité par Lumberjack, distribué par Blackrock pour deux joueurs et joueuses à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes et disponible à 13,90 € chez la Caverne du Gobelin, et le jeu est fabriqué en Chine.
Ouais, ça c'est un peu dommage quand même.
C'est un peu dommage, oui. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de figurines en plastique, ce genre de choses. Je pense qu'on est capable de le produire en Europe, effectivement.
Ouais, après, faut toujours se demander si c'était une production internationale ou juste francophone. Auquel cas, bah si c'est fabriqué pour la Chine et pour l'Europe, ben ça a du sens de le fabriquer en Chine, mais je suis pas sûr que c'était le cas à la base.
Je suis pas sûr non plus, non, effectivement.
Parce que du coup, tu vois, le côté, on va faire des plus petites boîtes. Cool. Mais à un moment, on va quand même taper sur d'autres trucs. Vous inquiétez pas.
Mais voilà. Non, oui, et on fait des toutes petites boîtes, mais elles viennent quand même de l'autre bout du monde, effectivement. Donc, bon. Et donc, toi, tu vas nous parler de Fil Rouge, l'ombre du tigre.
Alors, Fil Rouge, l'ombre, deux points, l'ombre du tigre. C'est un jeu de Julien et Tom Protière qui a été illustré par lui-même. Tom Protière, pour cette boîte-là, hein, j'en parlerai, mais Fil Rouge est destiné à devenir une gamme. C'est pas destiné d'ailleurs, c'est sûr. Et donc c'est encore une fois édité chez Lumberjacks et distribué par BlackRock. Ça se joue de 2 à 4, c'est à partir de 12 ans pour cette boîte-là. C'est présenté comme 4 fois 30 minutes, j'y reviendrai. Là encore, fabriqué en Chine, là encore, il y a que des cartes dans les boîtes, dans la boîte. Donc encore une fois, voilà. Hein. Bon, cela dit, celui-là peut s'exporter puisqu'il n'y a pas de texte. Donc peut-être que là aussi c'est sauf les règles. Et les règles sont qu'en français, donc en fait, non, ça ne marche pas.
Alors, de 2 à 4 joueurs, est-ce que tu as une idée de la meilleure configuration?
C'est un jeu non rejouable, sauf si, bon, peut-être par moi qui n'ai pas de mémoire, mais sinon c'est un jeu où tu vas découvrir une histoire. Et je l'ai fait à deux, moi, en vacances avec ma compagne. Et je reviendrai sur les hypothèses que j'ai sur plus de joueurs ou
D'accord,
joueuses.
ok.
Je pense que c'est pas. À deux, c'était bien. Sinon, j'en aurais pas parlé. Mais je pense qu'à 3 ou 4, il y a certaines dynamiques qui doivent être un peu différentes en termes de communication. C'est pas inclusif au niveau des règles, hein, on parle que de joueurs. Et c'est à 14,90€ à la caverne du Gobelin. Alors tout d'abord, juste un point, rassurez-vous, si vous avez peur d'être spoilé, comme c'est quand même un jeu à scénario, absolument pas. Je vais décrire le jeu, mais je pense que j'ai pas besoin de parler. Je parlerai de la qualité du scénario, etc. Mais je ne spoilerai pas ce qui s'y passe de manière générale, donc vous pouvez y aller tranquille. Donc, gamme de jeu, j'ai dit un fil rouge, puisqu'il y a un fil rouge 2 points, l'ombre du tigre, il y aura un fil rouge 2 points, autre chose. C'est du récit, c'est du jeu à récit, hein. J'en fais sorte, tu sais, on a fait un dossier sur la narration, puis on parlait des jeux narratifs, je disais la narration, les jeux narratifs n'existent pas, donc je reste fidèle à moi-même. Des jeux à récit, voilà. Et où il n'y a pas de texte, pour le moment en tout cas, pourrait tout à fait y avoir des scénarios où il y a des textes, que ce soit du texte écrit, ou je vois bien, par exemple, tu sais, du texte des pancartes à la file muet un peu, ou bien, je sais pas, des onomatopées, ou tu vois, des trucs un peu façon BD.
Oui, ou même peut-être un panneau dans le fond, quelque chose, ou...
Ouais, carrément, oui, ça doit y avoir peut-être. Ah, je me rappelle plus, mais pour le coup, c'est important parce que ça peut constituer un indice sur la fin. T'y as joué, toi, ou pas du tout?
Absolument pas.
Non? Ni à la démo, du coup?
Non.
Ok, parce qu'il y a une démo qui était sortie pour le Fige. Tu sais, ça fait partie des jeux. Il y a Behind aussi qui va bientôt sortir, qui a droit à une démo.
Oui.
Disponible en ligne. Voilà, vous pouvez essayer. Donc, récit sans texte. Les illustrateurs et illustratrices vont changer selon les boîtes. Par exemple, pour le scénario de démo qui, je crois, était le vieux Shen ou quelque chose comme ça, c'était Anne Heitzik. Pour un nouveau jeu qui sortirait normalement en novembre, en tout cas, c'est prévu pour l'instant, ce sera Alizé Favier, qui a été illustratrice de Biotope. Ce sera le scénario en chacun de nous. Mais par contre, pour l'instant, ce qu'on retrouve au scénario, c'est toujours les frères Protière, puisqu'ils sont frères, Julien et Tom. Mais là aussi, hein, si la gamme se développe, j'imagine que c'est sujet à évolution. Les scénarios, ils sont destinés à des publics différents. Ici, j'ai dit que c'était 12 ans et plus. J'en parlerai un petit peu. Le prochain, normalement, sera 8 ans et plus, donc potentiellement un public plus jeune. Public différent, parce que ici, il y a un cartouche aussi où ils expliquent que, ben, je peux te le lire, je vais le trouver, je vais te le lire. Ce sera mieux que de le paraphraser. Ils disent, avec un petit dessin qui symbolise le petit emoji câlin, à travers la gamme Fil Rouge, nous vous invitons à parler d'émotions, à écouter l'autre, voir l'histoire se dévoiler pas à pas, accompagnée de vos propres mots. Dans cet opus L'Ombre du Tigre, nous abordons des sujets qui peuvent émouvoir ou évoquer des souvenirs difficiles. Pour prendre soin de votre groupe, nous vous proposons d'indiquer que chacun ou chacune est libre d'arrêter. Tiens, si, ici. J'y reviendrai alors. Chacun ou chacune est libre d'arrêter de jouer à n'importe quel moment et sans avoir à justifier son choix. Après la partie, observez si tout le monde se sent bien, c'est cela aussi, jouer ensemble.
Est-ce qu'il y a la fameuse carte X dans la boîte?
Non, mais tu vois, bon, alors c'est pas un message destiné spécifiquement aux enfants, c'est plus au groupe de joueurs et joueuses, mais on comprend qu'il y a des sujets qui peuvent être difficiles et qui peut-être... Alors ça peut être abordé avec les enfants, hein, moi je pense, mais juste ça dépend des familles, ça dépend de ce que t'as l'habitude d'aborder avec les enfants, de comment tu les abordes, etc. Et du vécu évidemment de chacun, sachant que là, le vécu difficile n'est pas propre à des enfants. En lisant ça, je me rends compte que quand même, l'hypocrisie est forte, puisque dans tout le truc, c'est 2 à 4 joueurs, et ici, ils mettent l'inclusif. Et je sais pourquoi. Parce que ce petit truc un peu genre « prenez soin de vous », ça fait appel, tu vois, à des sentiments d'inclusivité, à prendre soin de l'autre, donc on met l'inclusif. Par contre, dans tout le reste, on s'en fout. Ça, voilà. Donc, bon, voilà. Au-delà de ça, donc, tu vois, il y a un côté, effectivement, je trouve toujours ça bien, moi, les content warnings, sur le côté faites attention aux autres, arrêtez la partie s'il y a besoin, etc. On le trouve dans Alice is Missing, dans le jeu de rôle depuis longtemps, ça commence un peu à être là dans le jeu de société, notamment les jeux à histoire, dits, entre guillemets, potentiellement destinés aux adultes, ou en tout cas avec des émotions qui peuvent éveiller des choses chez les gens. C'est presque un peu restrictif, parce que n'importe quel jeu peut évoquer ça, enfin des sentiments difficiles, mais bon.
C'est pas faux.
Du coup, moi, au niveau du contexte, en fait, Cyrus avait ramené la boîte de démo du Fige, il l'avait essayé, et il m'y a fait jouer, et donc c'est un seul acte, tu vois, 4 fois 30 minutes, c'est parce qu'il y a 4 actes, 10 de 30 minutes. Donc en fait, la boîte de démo, c'est plus ou moins un seul acte de je sais plus combien de cartes par acte.
D'accord.
Mais, voilà. Ouais. Et pour donner une idée en fait du système, du concept. Et j'avais trouvé ça assez prometteur, en tout cas assez pour me dire ouais, ok, bah je vais prendre ça et puis on verra quand ça sort. Et puis du coup, c'est sorti pour l'été. On l'a emmené en vacances avec ma compagne. Et puis ma compagne, on était à la campagne, mais avec ma compagne. Est-ce qu'on a fait un scénario par soir? Peut-être qu'un soir, on en a fait 2 vers la fin, je sais plus. Ma mémoire, la fameuse. Mais du coup, ouais, j'ai joué uniquement à 2, même la démo. Donc gardez ça à l'esprit.
D'accord.
Sur le contexte aussi, moi, j'aime pas les jeux dits narratifs. J'aime pas les jeux à récit, dans lesquels, tu vois, souvent, on va reconstituer des histoires. Je trouve ça, en général, raté. parce que, pour plein de raisons que j'ai expliquées dans le dossier sur la narration, c'est quelque chose où souvent j'en sors déçu en me disant, en fait, vous auriez pas dû faire ça. Par exemple, pour citer quelques exemples, j'ai trouvé Backstories raté, qui est sorti récemment aussi, là, Seul sous la glace. J'ai trouvé Crime Zoom pas terrible. J'ai trouvé le Sherlock Q System ennuyeux. Undo, j'ai trouvé ça vraiment nul. Donc, ce genre de jeu, je pars toujours avec un a priori assez négatif.
Et les jeux où on crée sa propre histoire, par exemple, là, tel que tu me le décris, ça me fait un petit peu penser à un Greenville 89 ou un Paris 89. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, j'y ai pas joué, mais ça se rapproche du coup plus de storytelling, un peu.
Oui.
Mais alors qu'en fait, dans Backstories ou quoi, on t'impose un scénario que tu dois découvrir. Dans Greenville, tu crées ton propre scénario. On verra que Fil Rouge, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un scénario qui a été écrit.
Oui.
Et qu'on t'invite à découvrir, mais la manière de le découvrir est très différente des jeux que j'ai cités.
D'accord.
Notamment parce qu'il n'y a pas de texte. Donc l'idée de Fil Rouge, c'est qu'on va devoir, il y a une histoire, il y a un scénario qui a été écrit par les scénaristes, on va devoir essayer de la remettre dans l'ordre, en plusieurs actes, donc chaque acte on va essayer de le remettre dans l'ordre, sans mots. Donc on va pas lire des trucs, on va juste se baser sur des images. On va se distribuer un certain nombre de cartes, donc ça va dépendre du nombre de joueurs et joueuses, hein. Pour le coup, nous, avec ma compagne, on avait chacun la moitié des cartes de l'acte. Si on est quatre, bah, c'est un peu plus réparti, donc j'imagine que ça change pas mal la sensation de jeu, parce que bah, là j'avais la moitié des informations quand même, c'est pas pareil qu'en avoir un quart. Ça va aussi changer au niveau de la communication, évidemment, puisque là, je n'avais à communiquer, à comprendre, à interpréter qu'une seule personne qu'en plus je connais bien. Je vous invite quand même à jouer entre personnes que vous connaissez. Et donc, ici, il y a quatre actes. Alors, je sais pas si ce sera toujours quatre ou si ça va changer ou quoi. En tout cas, bon, après, voilà, hein, ça marche aussi avec le scénario de démo qui était un seul acte. Et donc, c'est un jeu donc à récit. Donc on va reconstituer une histoire, mais c'est aussi un jeu à communication, un jeu de communication, j'allais dire à communication limitée, disons que la communication est la parole, elle est pas limitée de quelque manière que ce soit, mais par contre on ne voit pas les cartes des autres, d'accord. Mais la communication est vraiment au cœur du jeu, c'est vraiment important de le prendre en compte, et c'est comme ça qu'on va pouvoir un peu mettre en place le récit. Donc dans chaque acte, il y a une carte de démarrage qui est imposée, qu'on va poser au milieu, et en fait on sait pas, cette carte-là, c'est pas forcément le début de l'acte. Ça peut être le milieu, la fin, dans le premier tiers, on sait pas à quel moment de l'acte elle se situe, c'est juste la carte de départ qui a été décidée pour le coup, qui nous est imposée. Et donc, il n'y a pas de tour de jeu, c'est discussion libre, et quand on veut, on place, ou quand quelqu'un veut en tout cas, une personne place à gauche ou à droite d'une carte déjà placée. D'accord ? On n'a pas le droit d'intercaler des cartes entre des cartes déjà placées, et c'est assez important. Parce que, du coup, tu raisonnes toujours par ce qui s'est passé juste avant ou ce qui s'est passé juste après. Et quand t'as placé la carte, elle est placée. Et donc, l'objectif du jeu, c'est qu'à la fin de l'acte, tout soit dans le bon ordre. Il y a un petit truc pour checker, en gros, une carte de solution qui va dire, bon, bah c'était ça, puis ça, puis ça, puis ça.
Okay.
On reviendra un peu sur ce moment de jeu, que je trouve assez intelligent dans l'ensemble.
Combien de cartes par acte ?
Combien de cartes par acte ? C'est une bonne question. Je peux te dire ça parce que j'ai la règle sous les yeux. Il y en a pas tant que ça, c'était chaque chapitre, donc chaque acte, ils appellent ça des chapitres, il y a 16 cartes, mais c'est pas 16 cartes que tu vas étaler, il y a une carte d'ouverture, puis 12 cartes de jeu que tu vas rajouter, puis des cartes résolution.
D'accord, donc l'histoire se répartit sur 12 cartes.
Et 12, c'est bien, parce que ça se divise par 2, 3 et 4, t'as vu ?
Et effectivement.
Et après, alors il y a d'autres trucs, des jetons. Alors c'est des jetons qui sont pas fournis, ça je trouve ça super. Ils te disent vous aurez aussi besoin de 3 jetons. Plutôt que de mettre des cubes en bois ou je ne sais quoi dedans, bah ils nous disent vous aurez besoin de 3 jetons, voilà. Ça peut être des pièces, ça peut être des billes, ça peut être enfin des billes plates, hein, plutôt.
Je pense qu'on peut tous trouver chez soi de quoi faire 3 jetons, c'est oui.
Dommage toujours de fabriquer en Chine quand même. il y a des bonnes initiatives en tout cas. Et donc ces jetons là, en fait c'est donc les gens posent le carte dans l'ordre où ils veulent. Tout en discutant, hein, j'y reviendrai, mais la phase de discussion est vachement importante. Tu es pas à flux tendu, hein, t'es pas obligé de poser dès que tu. C'est à un moment, tu le sens, tu poses. Si quand tu poses, quelqu'un pense que ben c'est pas le bon endroit, parce que les personnes ont des choses en main, parce que ben on se rend compte qu'en fait on avait mal interprété et qu'on s'est dit vas-y mets-le, et puis en fait on peut poser un jeton dessus qui montre qu'on pourra repositionner cette carte.
Ah très bien.
Et pour le coup l'intercaler entre d'autres, sachant que ça c'est vachement libre, on peut le faire maintenant, dès que la carte a été posée, mais on peut aussi dire, cette carte-là, on la repositionnera. Ou en tout cas, on se garde la possibilité de la repositionner. Ça peut aussi être parce qu'on n'est pas sûr, tu vois. Et peut-être qu'on n'utilisera pas ce pouvoir, mais en tout cas, voilà, on peut faire comme ça. C'est un petit truc de flexibilité, quoi. En fait, on a le droit à 3 erreurs, quoi, en gros. Parce que c'est des repositionnements qui vont pas te coûter de points. Parce que c'est un jeu. Donc, comme c'est un jeu, hein, Tu sais, qu'est-ce qu'il faut pour un jeu?
Il faut des points.
Il faut des points. Parce que sinon, c'est pas un jeu. En gros, t'as le droit à 3 erreurs qui vont pas te coûter de points. Et sinon, si chaque erreur te coûte un point et tu peux faire ton total à la fin de l'histoire.
Oui, c'est un jeu, c'est pas un polls. Et BGG n'accepte pas les polls, effectivement.
C'est complètement qu'on s'en fout des points dans ces jeux-là. Les enjeux, de toute façon, enfin, l'enjeu, il est évident, c'est d'essayer de remettre le truc dans l'ordre. Et de toute façon, la déception d'avoir raté, on l'a, on n'a pas besoin d'un système de points pour nous dire bravo, vous avez réussi. Ou,
Vous avez
ah,
marqué que 4 points, vous êtes nul. Oui,
bah, ils
effectivement,
disent
je
pas
vois
vous
tout
êtes
à fait
nul,
ce que
hein, dans
tu veux dire.
l'ensemble, hein,
Non,
je sais
non, mais
plus.
j'entends bien. Non, non, mais il y a certains jeux qui arrivent à te le faire comprendre sans te le dire directement.
Ouais, mais en fait, le jeu n'a pas besoin de ça pour avoir de l'enjeu, tu vois. Enfin, je veux dire, le fait de réussir à reconstituer l'histoire est l'enjeu en lui-même. Et si tu te trompes au moment de la phase de résolution, je reviendrai dessus, mais quand tu vois que en fait t'as fait une erreur, t'as déjà le seum. T'as pas besoin de te dire que t'as perdu un point pour ça. T'as déjà l'impression d'avoir échoué, en fait. Plus ou moins, quoi, c'est pas non plus très grave. Tu peux après analyser ton échec et tout, mais ouais, enfin, ce système de points me paraît complètement absurde. Les jetons, un peu moins, mais tu sens qu'en fait, je sais pas, les jetons, du coup, ils sont liés à ce score, comme si t'avais le droit à 3 erreurs non punitives. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans, dans le lien entre les jetons et les points. Je trouve les jetons bien parce que c'est des éléments de communication et que c'est pas inintéressant en termes de flexibilité et de prise d'information. Je reviens juste sur l'auteur du jeu. Enfin, le co-auteur, du coup, le co-scénariste, Julien Protière. Je sais pas qui est à la base du système, je pense que ça doit être lui, parce que, enfin, c'est en tout cas ce que je suppose, qu'il vienne nous dire dans les commentaires si c'est faux ou quoi, ou si c'est son frère. C'est quelqu'un qu'on n'a pas cité dans le dossier sur les auteurs ou autrices préférées. C'est pas forcément le gars le plus visible, et pourtant c'est un auteur super solide, je trouve, qui a fait des genres assez variés, mais en fait c'est toujours un gars qui a des propositions qui ont de l'identité. C'est lui qui a fait Cosmopolite, c'est lui qui récemment a fait In Extremis, c'est lui qui a fait Dream On slash Storybox, pour rester un peu dans le storytelling, c'est lui qui a fait La Marche du Crabe, c'est lui qui a fait Spirit, je crois qu'il n'était pas tout seul, mais en tout cas, il fait toujours partie de jeux qui ont une identité, et qui ont des choses à dire en fait. C'est pas forcément les meilleurs jeux de la Terre ou quoi, mais In Extremis raconte des choses. La Marche du Crabe aussi, Spirit aussi,
La Marche
c'est...
du Crabe aussi, oui, aussi
Et
bête entre
Cosmopolite
guillemets
aussi,
qu'il
enfin...
soit. Ouais, tout à fait. C'est vrai que non, non. À chaque fois, il y a quelque chose. Ouais, c'est des jeux sur lesquels à la fin de la partie, on peut avoir envie d'y revenir pour se re-raconter l'histoire à chaque fois. Ouais, tout à fait.
Ouais, qui racontent en fait des choses par leur mécanique et par In Extremis, t'as du stress quand tu y joues parce que t'as le temps réel, et ben c'est le stress du climat qui est en PLS. Il y a
Oui.
plein de choses qui se racontent dans ces jeux. Et là, il a utilisé un truc qui se raconte pour un jeu qui raconte quelque chose, tu vois, à proprement parler. Ça fait un peu penser parfois à des jeux qui sont sortis. Alors quand on en a un peu discuté en amont, toi tu pensais à Album,
Album, tout à fait, oui.
qui est sorti récemment aussi,
Qui est
que j'ai eu
sorti
l'occasion moi aussi d'essayer, ouais.
très récemment, où en fait, il y a ce côté, on va exprimer des émotions par rapport à des photos, et puis les autres devront savoir retrouver la photo qu'on a choisie parmi un lot de photos en fonction d'émotions qu'on a gradées sur une petite. Il a
Ah,
été,
la profiler.
voilà, il a été débriefé sur le festival de Parthenay, je crois. Album, il a très bien été expliqué. Et oui, voilà.
Effectivement, ouais, alors c'est pas le premier auquel j'aurais pensé parce que t'as pas le côté résolution d'un récit, mais par contre, c'est très vrai en fait dans la manière dont tu essayes de percevoir une image pour la décrire. Alors dans l'album, ça se fait par des mots que tu poses, ça se fait pas par le langage, en tout cas par la personne qui choisit d'utiliser les adjectifs, ça se fait par le langage écrit. Mais par contre, après les discussions, ben, mène à effectivement décrire des émotions qui se dégagent des images, par la description, par une atmosphère ou quoi. Donc effectivement, sur la partie communication et description analyse picturale, Album est un bon exemple, même si Album c'est des photos. Fil rouge, pourrait y avoir un fil rouge roman photo, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Et oui, tout à fait, pourquoi pas, oui.
Et c'est rigolo parce que Album, ça vient d'un éditeur, Actin Games, qui eux aussi ont des choses à dire souvent. Thibaut Quintan s'étend derrière et a
Oui.
plein de choses à dire. Mais celui auquel ça m'a fait penser au début, moi, c'est un Perspective. Alors, j'ai pas essayé Perspective, mais Mad en a parlé dans un T'as joué à quoi récemment. Et ce côté où, en fait, chacun a un petit bout de l'histoire. Et alors, dans Perspective, c'est plus pour résoudre quelque chose. Là où dans Fil Rouge, alors, tu résous effectivement parce que tu essayes de mettre les choses dans le bon ordre, mais tu racontes surtout. J'ai pas joué à Perspective, donc peut-être que c'est aussi plus raconter une histoire ensemble que résoudre une enquête. Je sais qu'il y a eu du débat sur le fait que ce soit ou non un jeu d'enquête. En tout cas, le titre Perspective lui-même dit des choses, et dans Fil Rouge, tu as différentes perspectives sur un récit. Après, tu vas pas répondre à des questions, tu vas juste essayer de reconstituer le récit.
Effectivement, alors j'ai pas joué non plus à Perspective, mais quand tu as raconté le côté où on a chacun une partie de l'histoire en main, de la description qu'avait fait Matt, ça m'a fait penser à Perspective. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit, oui, effectivement.
Et ça m'a fait penser aussi à des citations, disons. Il y a, alors, bon, c'est un peu plus éloigné, mais le poids des mots et le choc des photos. Là, je crois que c'était, je sais plus quel tabloïd magazine de, tu sais, de
Paris
presse.
Match, pour pas les citer.
Paris Match, ouais. Voilà, donc là, je reçois surtout le choc des photos, des images. Mais surtout, et c'est le sous-titre, je crois, d'album, une image vaut mille mots. Et que je trouve très juste dans Fil Rouge. Parce que une image vaut mille mots, surtout quand les mots sont écrits avec le cul. Alors, c'est un peu violent. Mais, quand tu sais pas écrire, parfois, dessiner, c'est mieux. Alors, faut savoir dessiner. Mais et puis exprimer des choses par le dessin, évidemment. Sauf que je pense que dans le jeu de société, on a plus de gens qui savent exprimer des choses par le dessin que par les mots.
On en revient aux auteurs qui savent pas faire de jeu narratif. Je vois ce que tu veux dire. Oui, tout à fait.
Voilà, on rejoint les discussions qu'on a pu avoir sur les faiblesses d'écriture. Moi, c'est pour ça que souvent j'aime pas ces jeux. C'est que je trouve que les auteurs de jeux de société qui s'improvisent scénaristes, souvent, ils savent pas écrire. C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas leur métier, en fait.
Oui, c'est un autre métier, on est d'accord.
Mais par contre, c'est grave, du coup, dans la qualité du jeu final. Parce que du coup, le jeu est souvent nul, le scénario est pas intéressant, et t'es là, et quand tu lis, tu te facepalmes un peu. Et là, je cible spécifiquement Backstories, que je trouve très très faible d'un point de vue de l'écriture, et qui du coup s'effondre, parce que quand tu fais presque tout reposer là-dessus, ça marche pas. Et derrière, tu vois, il se base sur des trucs, machin, des embranchements, blablabla, mais sauf que si à la fin, les embranchements, ça mène quand même à des trucs qui sont mal écrit, t'as beau multiplier les embranchements, ton histoire elle sera pas mieux. Et alors, je parlais un peu du jeu sur le Discord parce qu'on disait, de toute façon, il y a aucun jeu qui est bien écrit. On disait, tu sais, ça c'est les tailles qu'on a avec le pion des fois. Et moi je disais, non, tu devrais essayer Fil Rouge parce que c'est bien écrit. Parce que du coup, c'est bien écrit parce qu'il n'y a pas de texte. Et lui il me disait, mais en fait, du coup, c'est pas écrit. Et je dis, mais si. Parce que, enfin, moi à la base, j'étais pas d'accord. Je dis, mais si. Parce que l'écriture, c'est pas juste le texte. Quand t'écris, tu prends en compte le rythme, le scénario, l'intrigue, l'écriture des personnages. Les BD sans images, elles sont bien écrites, tu vois. C'est un océan d'amour qui est incroyable et qui, c'est écrit.
Un film muet, c'est écrit, on est d'accord. Oui, oui, je te rejoins.
Et de l'écriture musicale même, tu vois, y compris de la musique sans parole, tu vois, pas de la musique, pas l'écriture des paroles. Et en fait, à la fin, Pionf a réussi à me convaincre sur certains points, et je suis d'accord avec lui que du coup, parler d'écriture, il faut faire gaffe comment l'emploi, ou en tout cas, soit il faut se mettre d'accord, soit il faut détailler. Parce que en fait, il disait que, sinon comment on fait pour juger de la qualité d'écriture? Et pas seulement de la qualité de la narration, du coup. Pas seulement de la qualité du scénario ou quoi. Pas la qualité de l'histoire, ou de comment elle est racontée. Mais vraiment la qualité de l'écriture. De la syntaxe, du style et compagnie. C'est des choses qu'on a le droit de juger, tu vois, quand un jeu se base là-dessus.
Absolument.
Et que moi, justement, je juge souvent faible, mais il me disait, mais si tu parles d'écriture au sens trop large comme tu le fais, eh ben du coup, c'est très difficile de critiquer l'écriture. On a du mal à se baser sur, en fait, là, le jeu est raté parce qu'il est mal écrit. Alors que peut-être que le rythme et tout est maîtrisé, mais juste, l'écriture est mauvaise. J'ai en tout cas compris ses arguments et je pense que je le rejoins pas mal, du coup il a réussi à me convaincre. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, pour des débats enflammés là-dessus. Et justement, je trouve que dans le jeu de société à récit, souvent la narration est ratée pour plein de raisons, mais notamment parce que l'écriture est faible. Et parfois un peu gênante, au-delà des éléments de narration non textuels ou d'autres éléments pour raconter une histoire. Donc j'ai cité quelques exemples. Et je l'ai dit, c'est parce que souvent c'est pas les personnes dont c'est le métier ou pas ces compétences-là. Et c'est dommage parce que je suis pas non plus dans le gatekeeping à dire non, il faut que les personnes qui ont fait des études de écriture écrivent des romans et tout. Au contraire, enfin, écrire, c'est le geste d'écrire est à la portée de tout le monde.
Absolument. Non, mais effectivement, ce serait peut-être intéressant d'inviter des romanciers ou des novellistes à participer à l'écriture de ce genre de jeu. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des éditeurs, c'est à creuser.
Mais d'un autre côté, je suis content, en fait, pour ces personnes-là, tu vois, qui s'improvisent scénaristes parce que peut-être qu'ils ont toujours envie d'écrire et c'est cool. Mais, souvent c'est raté, mais en même temps essayez, ok, mais accepter que ce soit critiqué, quoi, parce que c'est normal en fait que vous ratiez, parce que ça se travaille et c'est pas sur un jeu que ça va suffire, quoi. Également, il y a beaucoup de ces jeux à récit qui prennent peu en compte le fait que c'est des jeux de société et que en fait pour raconter une histoire, le jeu de société a des forces que n'ont pas d'autres médias et qui n'est pas forcément le texte, et du coup comme ils se rabattent souvent sur le texte, ils oublient qu'en fait ils ont plein d'autres moyens de le raconter, même dans un jeu à récit. Tu vois, moi j'aime pas Blake et Mortimer parce que je trouve que ça a énormément vieilli de ce point de vue-là. La BD a plein de façons de se raconter en termes de mise en scène, de découpage. Et dans Blake et Mortimer, je sais pas si t'as déjà lu, mais il y a des bulles, elles font l'ensemble de la case.
On est à la limite du roman dessiné dans Blake et Mortimer. Des fois, ça peut être très lourd et il y a beaucoup de gens qui apprécient pas pour ça, alors que t'as des BD. Mais comme tu dis, tu prends une BD, c'est une BD pour enfants, mais qui s'appelle Game Over. Il y a pas de texte du tout et l'histoire se raconte très bien.
Donc voilà, la BD a su s'approprier ses propres codes et tout, et moi j'aime pas justement quand dans Blake et Mortimer, bah en fait, on te met une case où il y a 25 lignes, en plus écrit en tout petit parce qu'il fallait faire tout rentrer dans la bulle où c'est extrêmement explicite, là où je préfère des BD qui vont utiliser leurs propres forces pour raconter des choses. Bah pareil dans le jeu de société, j'aime bien quand que ce soit avec des mots ou pas, ben ça se raconte autrement par un système de jeu, etc. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait de texte, mais il y a plein d'éléments qui sont peu conscientisés par les auteurs autrices, que ce soit la mise en scène, etc. Le fait que le rythme d'un jeu il est propre à la table. Donc voilà, que tu vois, on va créer des axes de développement dans certains jeux de gestion ou quoi, et c'est même pas propre au jeu de récit. Là-dessus, allez écouter encore une fois le dossier sur la narration. Hein. Et je trouve que justement, ben, quand le jeu de société, et c'est pas propre au jeu de société, en gros, quand un art veut en singer un autre, plus légitime, tu vois, ou vu comme plus légitime, ben, souvent, ça se prend les pieds dans le tapis, parce que ben, si ça marche ailleurs, en fait, si tu l'adaptes pas à ton propre média, si tu le reprends tel quel, ben, en fait, c'est pas forcément adapté à ton propre média, quoi. Et c'est pas foufou, et souvent, dans le jeu de société, le système, il est là un peu pour découvrir l'histoire, tu vois. Il est pas là pour permettre de créer l'histoire, il est là pour la découvrir. Une histoire qui a été écrite avec du texte, et lire le texte, c'est un peu le but du truc. Tout ce que je fais, c'est pour apprendre ce qui se passe dans le récit, dans le scénario, et ça manque de cohésion et de lien. C'est un peu comme si tu vois deux blocs, s'il y avait deux blocs, tu vois, le but, le scénario, et puis le système, et puis qu'en gros, t'avais un bloc qui était là pour mener à l'autre, plutôt que d'essayer de faire un peu un tout cohérent, quoi. Y a un côté... Et j'aime pas ça, tu vois. Le système, j'utilise parce que je veux lire du texte. Et c'est assez pauvre, tu vois, en termes de proposition, je trouve. À la limite, je suis OK. Mais à ce moment-là, encore une fois, il faut que le texte soit super, que l'écriture soit au top, que le scénario soit génial, que les personnages soient touchants. Et c'est jamais le cas dans les jeux de société qui ont ce genre de truc. Parce qu'à ce moment-là, au contraire, tu vois, créer un système presque transparent qui permet vite l'accès à l'histoire... et qui évite d'être un parasite, et pour le coup Backstories est assez fort là-dedans, parce que le système ne parasite pas du tout la découverte du texte, c'est ok. Si le système est là pour se mettre au service de l'histoire, pourquoi pas, mais il faut qu'encore une fois, l'histoire soit béton. Et c'est rarement le cas, quoi. Et donc dans Fil Rouge, pour en revenir à Fil Rouge, hein, qui fait que, là je t'explique un peu le pourquoi, ben, moi la plupart des jeux comme ça ratent pour moi, et du coup Fil Rouge fait le choix d'un jeu à récit, donc ici aussi, hein, on va reconstituer l'histoire. Comme dans un Backstories, on va découvrir petit à petit ce qui se passe dans ce scénario. Mais déjà, d'une, il y a le choix de se passer du texte, en tout cas dans ce scénario-là, et dans la démo. Alors, c'est évidemment lié au système, mais peut-être aussi que c'est un moment, les scénaristes, ils sont honnêtes avec eux-mêmes et ils disent, en fait, on sait pas écrire. Alors là, encore une fois, il faudrait leur retour pour savoir quelle est l'initiative de ne pas mettre de texte. Est-ce que c'est parce qu'ils sont conscients des faiblesses d'écriture qu'ils peuvent avoir, mais qu'ils veulent quand même raconter un truc? Et que, justement... Il y a peut-être d'autres pistes que la copie de l'écriture, enfin du roman, tu vois, du livre, pour raconter des choses, explorons-les.
Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas aussi une logique commerciale qui dit, il n'y a pas de texte sur les cartes, on n'aura pas à les faire traduire?
Ah, c'est possible. J'ai pas pensé sous cet angle-là, mais c'est une bonne piste, effectivement. Ça peut.
C'est toujours ça de prix. Voilà. Allez hop.
Donc ici, parce que pour éviter le texte brut, il y a plein de choix dans le jeu de société pour raconter des choses. Ici, ils ont fait le choix de passer uniquement par une narration, par les images. Encore une fois, pour le coup, ça fait beaucoup penser à des BD sans texte, hein, c'est assez fréquent, hein, y en a plein, ou à des livres jeunesse sans texte, enfin il y a plein de manières de raconter des... Mais je parle de BD parce que c'est la science de l'ellipse, hein, et que tu combles les vides entre les cases pour reconstituer ce qui s'y passe, là il y a un petit peu ça. Et donc Fil Rouge, son système, plutôt que de dire c'est un moyen de transport pour accéder à l'histoire, en fait le système va construire une histoire. Tu vois, c'est pas juste j'ai mon système et j'accède à de la lecture, c'est ensemble. On peut pas jouer en solo à Fil Rouge, hein, ce qui est souvent le cas dans les jeux à récit. On peut souvent jouer en solo parce que le système ne met pas en valeur la coopération. Ici, on va construire l'histoire, on va la créer ensemble. Et du coup, c'est pas un moyen de transport, mais c'est vraiment un système qui va faire corps avec ce qu'il raconte. Tu vois, le lien qui manque souvent, moi je trouve que Fil Rouge réussit à l'avoir, et c'est toutes les personnes à table, et ensemble, on va réussir à créer un récit qui est cohérent et qui respecte la chronologie qui a été voulue par les auteurs du scénario ou les autrices du scénario, quoi. Et le système, du coup, va permettre à la narration d'émerger et à tout le récit d'émerger. Le fait que on voit qu'une partie de l'histoire, une histoire dont on ne connaît pas l'ordre, sachant que les cartes que j'ai en main, si ça se trouve, c'est des trucs qui suivent, tu vois, en termes de chronologie, mais peut-être pas. Là encore, j'imagine qu'à 3 ou 4, c'est assez différent d'à 2.
Puisque, ah, tu, connais, toute petite partie de l'histoire au lieu de la moitié, effectivement, ça doit tout changer, oui.
C'est ça, et t'as beaucoup moins de chances d'avoir exactement des trucs qui se suivent, qui rendent le truc un peu, peut-être un peu plus simple, et qui facilitent pas la communication pour le coup. Et donc ce système-là, donc il y a ce système de communication, pas de communication limitée, mais d'information partielle, et de comment est-ce que il y a le système de placer juste avant ou juste après, qui évite trop de flexibilité, de ne pas avoir d'enjeu à poser une carte. Là, quand tu poses une carte, tu prends quand même un risque.
Un petit côté The Mind.
Ouais, carrément, ouais, t'as raison.
Ouais,
complètement, ouais.
Ah, t'aurais pas dû la poser, je pense que j'avais mieux. Enfin, bon.
Et ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, la communication est libre. Tu vois, dans The Mind, c'est pas le cas. Mais par contre, tu as ça quand les gens posent leurs cartes. Et même si t'as pu communiquer avant, tu vois, c'est comme si tu communiquais dans The Mind sans te dire les numéros et que t'arrives pas, et que quand même quelqu'un se trompe. Mais du coup, tout ce système, en fait, s'il y a pas de discussion, la discussion, il y a pas de limite dans les règles. Tu vois, il y a pas de, vous ne pouvez pas dire les personnages que vous voyez ou quoi. Non, c'est parler de vos cartes et mettez-vous d'accord sur qui joue une carte avant ou après. Et du coup, en fait, ça crée plein de choses parce que, en fait, ça met en valeur tous les éléments. Tu sais, je sais pas si tu vois le schéma de communication de Jacobson ou un truc comme ça, où il y a le canal, le machin, le... Enfin, il y a plein de trucs dont je me souviens plus maintenant. Tu vas donner des infos. Tu vas aussi demander des infos parfois parce que bah on t'a dit des trucs, mais toi, ça fait écho à des trucs que t'as toi sur tes cartes. Donc tu demandes des précisions parfois, ou bien tu demandes juste parce que t'as pas tout bien compris. Donc donner des infos, demander des infos, recevoir des infos, interpréter des infos, et tout ça par rapport aussi à ce que toi t'as en main, par rapport à ce qui a déjà été posé sur la table, par rapport à ce qui s'est passé dans les actes précédents, par rapport à ce que tu sais que la personne dit, et comment est-ce qu'elle peut omettre des choses. C'est là que je disais que connaître les gens, ça aide, parce que tu sais un peu la manière de communiquer des différentes personnes. Et du coup, quand on discute, bah ça crée la compréhension. Ça crée le fait de réussir à boucher les trous, tu vois. Je disais que la BD, c'est l'art de l'ellipse. Bah ici, c'est le cas. Tu essayes de boucher les trous entre les trucs que t'as et les trucs que les autres ils ont, et les trucs qui sont sur la table. Sauf que les ellipses, tu les vois pas. On doit se représenter un peu mentalement des ellipses, tu vois. Il faut imaginer la BD, mais où tu imagines les trucs, et du coup, où tu essayes de faire, ah, d'accord, donc là, il y a un trou, et là, il s'est passé ça dans ce trou, parce que dans la BD, c'est ça, c'est entre deux cases. Il s'est passé des choses, et toi, ton cerveau arrive à reconstituer ce qui s'est passé. Allez lire Scott McCloud pour ça. Et ben là, c'est ça, mais sans voir toutes les images. Au niveau du discours produit et tout, on est beaucoup dans le descriptif. On est dans le bon, ben je vois ça. On est vraiment beaucoup là-dedans. Plus peut-être que dans l'album, tu vois, où quand tu discutes, tu parles plus émotion, atmosphère, sentiment. Mais là, tu vas toujours être dans la description. Alors, tu peux un peu être dans l'argumentatif pour justifier le fait que tu penses que c'est à toi de jouer ou que tu penses que t'as ce que le truc juste avant. Mais on est quand même beaucoup dans de la description. Mais la description, ça peut être à la fois des personnages, ça peut être des couleurs, ça peut être de l'atmosphère, ça peut être des lieux. Tu vois, tu parlais des textes qui pourraient être sur les cartes. Je sais plus si c'est le cas dans celui-là, mais ça peut être utile. Ça peut être des petits détails. Ça peut être, ouais, comme dit, l'atmosphère, ou là, pour le coup, on se rapprocherait un peu des émotions que véhicule une image. Toute cette discussion va être là pour choisir finalement un moment, poser une carte et puis dire, bon bah vas-y, je pense que vu ce que tu me dis, ben pose ta carte. Et également, je parlais du découpage en 4 actes, en 4 chapitres. Ça marche pas pour le premier, mais au-delà du fait que ben c'est facile pour découper et faire des petites sessions plutôt qu'un jeu de 2 heures, en fait, au moment où tu reçois les cartes, d'autant plus si t'as laissé un jour passer entre les deux chapitres, ben, tu reçois tes cartes et tu fais déjà du lien, en fait, par rapport au chapitre précédent.
Tu retrouves les personnages, les situations, oui, bien sûr.
Qui parfois ont évolué, et qui parfois sont adultes, ou je sais pas, enfin, tu vois, ça dépendra des scénarios. Et du coup, quand tu reçois tes cartes comme ça au début du chapitre, en fait, ça peut déjà créer des émotions. Parce que, ben, tu vois le vécu des personnages, tu vois leur évolution, tu vois ce qui... Exemple, tout con, mais qui est pas dans le scénario, encore une fois, hein, mais je sais pas, tu vois un lieu, et puis tu reçois au chapitre 3, ce lieu, il est détruit. Eh ben, il s'est passé des trucs, et tu te dis, waouh, il s'est passé un truc et tout, et déjà, ça te fait des émotions, déjà, ça te fait des informations. Lisez pour ça aussi, ici même, de Richard McGuire, qui est incroyable, et qui prend le même lieu à plein de moments de l'histoire. Là aussi, sans texte, hein. Donc, voilà, le fait qu'il y ait les quatre actes, ça a quand même du sens de les faire de manière séparée. Et ça crée, justement, déjà des choses, juste avec les cartes que tu reçois par rapport au chapitre précédent. Et donc, je disais, au moment où tu la poses, cette carte, il y a souvent une petite phase d'hésitation parce que tu discutes. Là encore, j'imagine encore plus à 4. Tu discutes, machin, et tu te dis, est-ce que je la mets, est-ce que... Parce que des fois, les trucs sont assez proches, tu vois, dans les descriptions, et tu te dis, est-ce que c'est la mienne, est-ce que c'est pas la mienne. Et ça fait un petit moment de tension quand même, tu vois. Et une fois qu'elle est posée, ça fait un moment d'analyse. Ici, peut-être plus argumentatif, tu vois, où tout le monde regarde, il y a vraiment le focus qui se centre au centre de la table sur cette rivière de cartes, où on dit, ah, soit, ah, c'est cool et tout, t'as vu, on avait raison, ah, il s'est passé ça, machin, ou bien, ah, merde, là, ça va pas, machin. Et parfois, c'est le moment aussi où tu découvres des choses qui vont faire sens par le visuel, que la personne avait, mais qu'elle a peut-être mal décrit, qu'elle a décrit mais que toi t'as pas compris, et là tu vois ça et tu fais merde, ok, j'avais pas compris ça comme ça.
Ça lui semblait pas important, et puis toi, toi ça fait lien avec ce que t'as, ouais, etc. Ouais, bien sûr.
Avec ce que tu vois dans ta main, carrément, ouais. Et où, du coup, ça te donne des nouvelles perspectives en fait. Et ça, ça marche que, enfin, ce sentiment de jeu, il fonctionne que la carte soit bien placée ou pas. Enfin, que tu penses qu'elle soit bien placée ou pas. Parce que de toute façon, t'as des nouveaux éléments. D'où, des fois, justement, juste la personne pose et tu dis ah merde, c'était pas la bonne, d'où les jetons, tu vois, où tu peux tout de suite les mettre et te dire ok, bon, là, je sais que c'est faux. Par contre, c'est important que les jetons, tu puisses les placer qu'au moment où elle est posée, tu vois. Il y a un petit défaut à ça, du fait qu'on soit très dans le descriptif, et c'est lié au système de résolution, en fait, du jeu et de comment est-ce qu'on arrive à prendre des indices. Mais c'est à la fois un point positif et négatif. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de piège. C'est que toujours, et ça, tu le vois dans la phase de résolution, toujours, il y a un élément qui lie les deux cartes qui suivent.
D'accord.
Et c'est un élément vraiment, quand tu vois la résolution, si tu t'es trompé, tu sais que c'est toi. Et que le jeu ne t'a pas trompé. Ça, c'est vachement important. Parce que combien de jeux j'ai eu, ça peut être des jeux à embranchement. Alors, c'est pas spécialement dans le jeu de société, ça peut être dans le jeu vidéo. Par exemple, rien à voir. Conférence de NBA 2K. NBA 2K, jeu de basket, tu fais ton match, et comme il y a un petit côté narratif, tu fais une conférence. Souvent après, c'est nul, mais tu réponds à des questions à choix multiples. D'accord ? T'as ta conférence, quelqu'un te pose une question, et tu choisis entre deux trucs ou entre te taire. Et ben moi, combien de fois, alors c'est dans ce jeu, mais c'est aussi dans des jeux plus à visée narrative, je réponds à un truc, mais en fait, ça va m'emmener dans un chemin où je me dis, mais je voulais pas du tout dire ça. En fait, ce que je voulais dire, c'était pas ça, et tu m'as trompé. Et pareil, dans Undo, j'avais eu le même problème, où je fais une hypothèse, mon hypothèse, elle a du sens, et juste, toi, ça te correspond pas, mais en fait, mon hypothèse, elle a pas moins de sens. Et dans des jeux plus puzzle, Unlock, par exemple, des fois, on te donne des indices, enfin, on te propose un système d'indices, et le système d'indices te piège, parce qu'en fait, tu te dis, ok, bon, c'est pour quand je suis bloqué, t'es bloqué, tu vas voir l'indice, tu vas dire ça, je le savais déjà. Donc en fait, c'est que ton système d'indice est mal fait. Donc le jeu t'a quelque part trompé. Moi, je déteste ça. Et là, moi, dans Fil Rouge, j'ai un moment où, sur le coup, j'ai un peu râlé, mais à y réfléchir après, je me suis dit, non, c'est bon, ok, en fait, on avait les bons indices, c'est ma faute, c'est notre faute si on s'est trompé. Donc ça, c'est bien. C'est un bon point. C'est un bon point quand tu vérifies que si tu t'es trompé, tu te dises pas, bâtard de jeu. Tu m'as menti. Et en fait, j'avais raison de mettre ça, et en fait, c'est que tu m'as mal prévenu. Ça, c'est cool. Le problème de ça, c'est que tu sais que il y a pas de piège, et que en fait, il y aura toujours un élément qui lit deux cartes. OK ? Un élément vraiment factuel de description, quoi, un élément visuel. Et du coup, des fois, t'es un peu dans du cherche et trouve, et où tu t'éloignes du coup de la création de récit. T'es là et tu te dis, là, moi, j'ai des papillons. Les papillons, on s'en fout, hein. C'est juste, tu cherches le petit détail. T'as pas une carte avec des papillons.
D'accord. Tu vois ? Ah oui, ça peut te sortir de l'histoire, effectivement. Je vois ce que tu veux dire. Ouais.
T'es vraiment dans du cherche et trouve où t'es plus du tout dans la sensation, dans la chronologie. T'es plus vraiment dans le quel détail se retrouve sur ma carte et sur la carte qui est là ou sur la carte que tu as. Ça, c'est un peu dommage. Et en fait, c'est un peu le défaut de sa qualité. C'est, du coup, à la fin, effectivement, t'es pas trompé. Mais par contre, ce que t'as raté, c'est peut-être un détail à la con. Et du coup, en fait, t'essayes de chercher les détails à la con plutôt que le sens global de l'histoire.
C'est dommage.
C'est dommage. Et j'ai peur que le système, sur les scénarios autres, mène, en fait, à ce genre de dynamique, potentielle. Après, tu peux te dire dans ton groupe, je te réponds pas parce que ça fait pas partie du sens de l'histoire. Mais en même temps, tu cherches les indices pour les mettre dans le bon ordre, quoi. Donc, bon. Donc voilà, ouais. De ce point de vue-là, c'est vraiment super, je trouve. Le truc, ça évite aussi, tu sais, dans certains jeux dits narratifs, dans certains jeux à récit, ils se forcent à mettre des phases un peu de puzzle, des petites énigmes. Souvent, elles sont nulles.
Oui.
Parce que, elles sont pas là, parce que c'est pas un jeu de puzzle, c'est pas un escape, c'est un jeu visé de récit. Et du coup, c'est pas intéressant. Et à chaque fois, dans les reviews, tu entends, il y a des phases de puzzle, elles sont pas intéressantes. Là, il y a pas ça, parce qu'en fait, le puzzle, c'est la reconstitution du récit. T'as pas besoin de dire, il y a un petit labyrinthe, il faut que je superpose des cartes et ça fera une pomme.
C'est pas des petites conneries artificielles qui viennent rajouter, pour rien, je vois tout à fait.
Ouais, là, le puzzle est le jeu, en fait. Tu vois, l'obstacle, c'est le jeu en lui-même. C'est la réalisation du jeu et du récit. Et Behind a un peu ça aussi. Tu vois, j'ai essayé la démo, comme dit, et y a un peu ce feeling, même si c'est un peu différent. C'est même très différent, puisque là, tout est étalé sur la table, en tout cas dans la démo. Donc, en fait, tu fais plus un puzzle à plusieurs que t'essayes de comprendre. Mais là aussi, le puzzle est la résolution de l'histoire elle-même. Parce que dans Behind, il y a aussi un côté quand même un peu narratif. Et du coup, ça évite effectivement tout ça, et ça donne quelque chose de solide, où tu discutes, où tu communiques, où t'essayes de résoudre le truc, où tu crées la narration, où tu crées le récit, où le système est la narration, en fait. Et c'est là que ça fait qu'il y a cette force-là. Je l'ai dit, le système de points, il est nul. Surtout les points, les jetons, comme dit, je les trouve plus pertinents mais t'as l'impression qu'ils sont là parce qu'il y a les points. Et je parlais de la phase de vérification, elle est assez intelligente aussi, parce que en fait, tu révèles par tiers. Va y avoir 13 cartes, donc 12 cartes que t'as posées, tu vas révéler, je crois, enfin, tu vas prendre une carte de résolution, il va te dire, bah, tu révèles tel nombre de cartes et tu vas vérifier ces cartes-là. D'accord? Tu vas pas vérifier tout d'un coup. Et en fait, sur la carte de résolution, tu vas avoir un petit schéma qui va représenter les cartes en question, les cartes dans le bon ordre, et avec à chaque fois entouré le petit truc qui permettait de faire le lien entre les deux cartes. Et c'est là que tu te rends compte que tu t'es pas fait...
Les fameux papillons
ou autres. Mais en tout cas, ça évite... c'est là que tu te rends compte que le jeu ne t'a pas trompé.
D'accord.
Un truc très malin et qui prend en compte quelque chose d'important, c'est si tu t'es trompé dans ces trois premières cartes, t'as le droit de modifier la suite. Et ça te coûte pas de jetons, ça te coûte pas de points.
Ah, très bien.
Ça, c'est super, parce que ça prend en compte le fait que peut-être que tu t'es trompé plus tôt et que ça a modifié complètement ta perception de la suite. Je sais pas si tu avais ça en mathématiques. Moi, je détestais quand j'avais un zéro, parce que peut-être j'ai fait une erreur de calcul à la con au début, et du coup, tout le reste est faux, évidemment. Alors qu'en fait, c'est comme si, à la correction, tu vois, il corrige un tiers de ton exercice, il te dit, tiens, là, t'as fait une erreur de calcul, t'as un point en moins, maintenant, fais la suite en sachant ça.
Alors moi, j'avais un prof de maths qui était sympa, il comptait autant le résultat que la méthode. Tu vois, là, t'as un petit peu ça, oui, quand même.
C'est quand même fréquemment le cas, hein, je crois. En tout cas, dans le secondaire, qu'on valorise aussi la méthode.
Heureusement.
Juste que c'est moins punitif qu'il y a un certain temps. Mais donc là, ouais, ça prend en compte ça. Et en gros, ça te dit, bon, bah là, t'as fait une erreur. Maintenant, repense ton truc parce que ça peut vraiment changer.
Non, mais c'est vrai que c'est sympa. Le jeu, dès le départ, il te dit, bon, alors, fallait regarder dans cette direction-là. Si tu t'es trop, vas-y, corrige. C'est pas grave. Vas-y, fais ce que t'as. Ouais, non, mais c'est cool. C'est cool. Oui, ça enlève de la frustration de s'être planté sur la première carte et d'être parti n'importe comment juste à cause de ça, quoi.
Et donc, j'ai dit, ouais, pas de prise en traître. Et c'est facilité, évidemment, par les visuels qui, là, c'est donc Tom Protière qui est aux illustrations. C'était Ian Heidsieck au premier. C'est peut-être encore plus le cas sur le scénario L'Ombre du Tigre parce que c'est vraiment du noir et blanc, quasiment exclusivement. Et du coup, en fait, il y a un jeu qui est sur les quelques éléments de couleur, à la fois en termes visuels et de mise en scène, mais du coup, le truc est lisible.
D'accord.
Et ça permet de communiquer facilement, même s'il y a plein d'éléments sur lesquels tu peux communiquer en voyant les images. Il y a un côté où t'as l'impression que il y a une identité artistique dans les dessins, dans les visuels, c'est important, hein, c'est un jeu basé sur ces visuels. Mais en même temps, tu sens qu'ils ont été pensés, ben, pour aussi en termes de système. Et c'est là que tu retrouves le lien entre la narration, l'histoire, la façon dont elle est racontée, la façon dont elle est illustrée et le système de jeu, de la communication sur des images, sans voir les images des autres. Il y a encore une fois une bonne cohérence. Et je pense d'ailleurs qu'il y a certains éléments visuels qui sont là juste pour te dire, ok, là c'est le lien. Ok, tu vois, qui sont pas là au service du récit, qui apportent pas grand chose en termes d'émotion ou quoi, mais qui sont juste là pour que le système en fait soit juste, quoi. Il y a une révélation finale. Quand tu révèles les trucs, c'est dommage, je trouve. Donc tu as tes cartes, machin, et tu peux les retourner. Et derrière, il y a un fil rouge. Je trouve dommage que le fil rouge il soit pas continu entre les cartes, en fait. Tu vois, tu pourrais avoir un système de résolution où juste tu retournes les cartes sur leur verso et que si c'est juste, le fil continue, tu vois.
Ah, effectivement. Ah, c'est à creuser. Effectivement, ce serait peut-être plus intéressant que de coller des papillons à droite à gauche. Je vois ce que tu veux dire, oui.
Ouais, même si c'est important aussi de, tu vois, en termes de frustration, de te dire, bon, bah là, l'indice qu'il y a les deux cartes, c'est ça. Alors, tu peux faire que le fil se continue, mais il faut que tu mettes les cartes dans des dispositions peu orthodoxes. Alors que si en les retournant côte à côte, t'avais ce fil qui se continue, ce serait trop bien en termes de mise en scène. Le problème, c'est que peut-être, ça servirait d'indice quand tu vois le verso des cartes des autres.
Ah oui.
Je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont, parce que sinon, franchement, en termes de système de résolution, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça. Enfin, on n'est pas les seuls avec Cyrus à leur avoir dit, enfin, on leur a pas dit, mais à l'avoir remarqué, il y a des gens qui, je pense, leur ont fait remonter. Je sais pas si c'est ça la raison. C'est une raison valable pour moi, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient l'utiliser, tu vois, pour se dire, ah, mais non, regarde là, elle continue tes deux cartes, donc c'est les deux qui suivent, tu vois, un truc à la con comme ça. Donc voilà. Après, encore une fois, l'enjeu du jeu, c'est vraiment pas les points. De toute façon, comme je l'ai dit, t'as envie de réussir parce que, bah, juste t'as envie de réussir, quoi. T'as envie de mettre tes trucs dans l'ordre. C'est comme ça, la vie. Je reviens vite fait sur la question du scénario. Là encore, pas de spoil, mais question plus mineure ici que dans d'autres jeux du genre, parce que je trouve que la force du jeu, repose pas tant sur son scénario que la manière dont on le construit ensemble. C'est ce que j'ai dit, moi, dans plein de jeux. En fait, le système est tellement anodin et peu au service des émotions et de la narration qu'en fait, tout repose sur la qualité de l'écriture. Et du coup, c'est pour ça que souvent, c'est pas terrible comme jeu. Là, je pense que Fil Rouge, même le pire des scénarios, un scénario tout nul, avec des personnages nuls et tout, bah, je pense que ce sera quand même bien, tu vois.
D'accord, bah justement, je voulais te poser la question. En tant que BD sans texte, on va prendre les 13 cases de ton fil rouge, voir les 4 scénarios. Est-ce que dans le cadre du scénario que t'as fait, est-ce que t'es satisfait de l'histoire ? Ou Osef ?
Alors pour moi, sa force, c'est pas forcément le fait qu'il ait une bonne histoire, c'est le fait que je pense que c'est un jeu quel que soit son histoire et que c'est la manière dont il raconte son histoire. Je pense que c'est ça la force de Fil Rouge.
D'accord.
Cependant, je pense que c'est un scénario bien mieux que la plupart des jeux du genre que j'ai pu essayer. Aussi parce que du coup, j'ai pas été sorti par une écriture catastrophique et que bah en fait, si ce même scénario était dans Backstories avec, je reprends Backstories, hein, je sais pas pour cracher dessus, mais c'est parce que c'est un exemple récent que j'ai pu jouer aussi en parallèle. Peut-être que je l'aurais trouvé nul le scénario. En fait, la force d'une histoire, c'est évidemment son scénario, mais c'est la façon dont il se raconte. Et là, le scénario en lui-même, la manière dont il a raconté, a fait que ça m'a quand même plus touché que la plupart des scénarios écrits que j'ai pu constater. J'ai préféré, moi, la démo du vieux chêne en termes de scénario et en termes de construction d'univers, de émotions que ça a véhiculé chez moi. C'est un scénario qui était plus concentré en termes de relations temporelles. J'ai envie de dire, c'est un peu plus intime. C'est pas exactement le cas, parce que Fil Rouge parle aussi beaucoup de l'intime. Je sais pas exactement quoi mettre derrière, mais en tout cas, ça faisait plus appel à des sentiments que moi, je peux ressentir. Ouais. Il y a moins un côté grande histoire dans le vieux chêne. C'est plus un truc assez ramassé que dans Fil Rouge. Encore une fois, j'en dis pas trop, mais en gros, le scénario de l'Ombre du Tigre est un peu plus long terme. Et t'as plus l'impression de suivre une histoire avec première scène, deuxième scène, etc. Et donc, le fait qu'il y ait une chronologie que tu reconstitues, qui est peut-être un peu moins axée sur les sentiments que sur le passage du temps, qui manifeste certaines émotions. Mais je trouve que le vieux chêne... Alors, il y a une idée de chronologie et de s'appuyer sur des éléments pour reconstituer la chronologie. C'est juste une chronologie plus courte. Mais disons que les émotions sur lesquelles il se basait, c'était un peu moins démonstratif. C'est plus des émotions douces amères, plus proches de ce que moi je ressens. C'était un peu moins appuyé, si tu veux. J'aime rarement, sauf le tombeau des Lucioles, où c'est le pathos à 100% et où ça marche à fond sur moi. Mais sinon, quand c'est trop démonstratif, trop sur le pathos, ou bien il faut que la mise en scène soit au diapason, et là je parle pas spécialement dans ce jeu, hein, je parle de manière générale au cinéma ou quoi, ça a tendance à moins me toucher. J'aime quand c'est un peu plus dans la retenue, quand c'est plus proche de mon réel et que j'arrive plus à m'identifier. Donc voilà. Bon, du coup c'est pour ça que moi les sentiments véhiculés en tout cas m'ont plus parlé dans la démo que dans L'Ombre du Tigre.
D'accord.
Là, moi, j'ai pas été touché plus que ça par l'histoire racontée de L'Ombre du Tigre, par le vécu des personnages. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Il y a des émotions qu'on veut véhiculer, qui justifient aussi l'âge recommandé, même si, encore une fois, ça dépend de quoi vous êtes prêt à parler avec vos enfants. Mais moi, c'est la manière de faire passer ces émotions-là. Tu vois, je serais prêt à les ressentir si peut-être elles m'avaient été communiquées différemment ou illustrées différemment, je sais pas. Après, c'est quelque chose d'assez personnel. Moi, je préfère les trucs plus dans la retenue. Je sais que, je crois, il y a eu des retours ici ou là, des personnes qui vraiment étaient touchées très fort par ce qui était raconté dans le scénario. Je vais pas m'étaler parce qu'encore une fois, j'ai pas envie d'en parler du scénario particulièrement et je pense que c'est pas nécessaire. Mais ça dépend aussi de votre vécu, de pas mal de choses, j'imagine. Et pas forcément votre vécu à vous, mais plus un vécu familial ou quoi. Donc si on se tient à l'écriture du scénario, ok, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui l'a fait que j'ai voulu parler de Fil Rouge. C'est vraiment plus la manière dont elle est racontée et dont le jeu tient, je pense, même si c'est un mauvais scénario, quoi. Si tu veux, en fait, là, le scénario, c'est plus la cerise sur le gâteau. Là où, ben, dans plein de jeux, c'est le gâteau.
D'accord.
Et le gâteau, il est pas bon, du coup. Alors que là, si la cerise, elle est pas bonne, soit tu l'enlèves, ou soit, bon, si tu l'enlèves, tu sais pas si elle est bonne ou pas. Mais au pire, ce sera que la cerise. Le reste, c'était bien. Donc voilà, pour Fil Rouge, je suis assez curieux aussi de ceux qui vont sortir. Moins pour... En fait, je suis curieux sans être curieux. C'est-à-dire que le scénario m'a pas assez convaincu pour que je me dise « Ok, je m'en fous du système, maintenant je veux savoir ce que ces gens m'ont à raconter. » Les scénarios sont pas assez puissants pour m'avoir bouleversé à ce point. Mais j'ai bien aimé l'expérience. Je pense que je l'ai fait comprendre, tu vois, tout le système,
absolument,
la cohérence, tout le fait que ça se construit à plusieurs et tout. Le truc, c'est que j'espère que le système, justement, aura d'autres choses à proposer. Parce que j'ai bien aimé le système, et notamment, je pense que si j'en refais un, celui-là, tu vois, je vais le filer à des potes, en fait. C'est le genre de jeu qui se file à des potes, ou qui se revend, si vous voulez le revendre. Mais sinon, ça se file, etc. Même si la boîte est jolie et tout, enfin, c'est un bel objet, et mine de rien, c'est aussi des souvenirs que tu te rappelles. Je pense que le prochain, j'essaierai à plus, pour voir le sentiment de jeu. J'ai peur que le système soit un peu statique. Tu vois que après la manière de communiquer va peut-être différer des histoires et des illustrations. J'ai peur quand même qu'on reste dans le discours descriptif, qu'on reste dans le côté où ben pour que le jeu soit juste, et ben on va faire un peu du chercher-trouve, etc. Je t'avoue que si c'est tout le temps la même chose, le même sentiment de jeu avec juste des histoires et des visuels différents, les visuels sont forts. Enfin, en tout cas, le visuel de L'Ombre du Tigre est fort. ça suffira pas pour moi.
Pour le moment, t'as envie d'y retourner, mais à voir à l'avenir ce que ça donne.
À voir s'ils ont des spécificités en termes de système, en termes de mise en scène.
Ouais.
Là, la mise en scène, t'as les cartes cachées, t'as la révélation des cartes, t'as la révélation du truc de révélation finale. J'adorerais aussi, mais ça me paraît, enfin, là pour le coup, il faudra vraiment bosser. J'adorerais que les systèmes de mise en scène ou de l'évolution du système, ça soit propre au sujet qui va être abordé. Bon courage. c'est tout un travail, hein, de faire correspondre le sujet de l'histoire et puis la manière dont tu le mets en scène au-delà du système de jeu. Le système, je sais pas s'il est vraiment très ouvert, tu vois. Time Stories me paraissait plus ouvert à l'époque. Finalement, les auteurs et autrices n'ont pas fait grand-chose de différent de Asylum, je trouve. Ici et là, un petit peu, mais aux entournures. Backstories, par exemple, tu vois, j'en ai dit beaucoup de mal.
Oui.
Je pense que c'est un système plus ouvert, qui pourra plus être twisté et qui peut-être pourra plus me surprendre. Reste que, tu vois, j'en ai fait un jeu du mois et j'ai trouvé ça vraiment supérieur à la fois en termes de récit et surtout, c'est ça qui est essentiel pour moi, la façon de le raconter à beaucoup de jeux que je catégoriserais un peu dans le même genre. Quand même un très très bon, enfin un très bon jeu, tu vois, ça a confirmé entre guillemets le sentiment que m'avait donné la démo sans l'enfoncer. Sans enfoncer le clou sur le « waouh, c'est génial ». C'est « ok, effectivement, c'est bien, effectivement, vous savez ce que vous faites, effectivement, vous racontez des choses, vous savez les raconter ». J'ai pas été bouleversé par l'ombre du tigre, la surprise a plus été dans la démo qui m'a attisé ma curiosité que dans l'ombre du tigre, du coup. L'ombre du tigre a été une confirmation que le système est fort. J'ai passé de très bons moments avec ma compagne, tu vois, à faire ces scénarios. Après, ils disent les 4 fois 30 minutes, la réalité c'est qu'on a joué 15 minutes par scénario, c'est peut-être qu'on est à 2. Là aussi, je pense qu'à 4, il y a peut-être un peu plus de discussion, un peu plus d'hésitation, je sais pas.
À 3 ou 4, j'ai un peu peur qu'il y ait la moitié des joueurs qui soient pas dans le bon sens.
Dans le bon sens.
Bah que les cartes soient à l'envers en fait, enfin après faut les prendre, les retourner, les regarder, mais tu vois que par rapport à la frise chronologique ça nuise un peu de voir la carte par le haut.
Ah ok, yes, je vois ce que tu veux dire, ouais c'est possible, alors que là on était face à face, alors on n'était pas côte à côte, moi je
Ah vous étiez face à face. Bon, ok, et ça t'a pas gêné?
Après, je suis prof des écoles en maternelle, je sais lire les livres à l'envers.
Ok.
Voilà. Non, ça m'a pas dérangé. Plutôt convaincu par tout ça. Même si, comme dit, ça a juste confirmé que je trouvais que c'était bien, et ça a pas été un « waouh, ok, la démo c'était juste un avant-goût, en fait c'est génial et tout ». C'est pas ça. Mais c'est « ok, ouais, effectivement ». C'est bien, et vous avez refait un truc bien, comme la démo, c'est bien, et je pense que ce sera très bien à découvrir pour plein de monde. Donc voilà, je sais pas si toi ça t'a donné envie de le découvrir, mais...
Au moins, je vais au moins me pencher, si j'ai l'occasion, au moins sur la boîte de démo, voir ce que ça donne. Je pense que l'occasion d'une partie de 30 minutes, c'est pas un gros investissement, donc ça peut se faire, ouais.
Ouais, je sais pas si la démo est en print and play, si elle l'est, je le mettrai dans le billet. En tout cas, il y a déjà, comme dit, une suite qui est prévue en novembre, à dernière date, en tout cas, c'est ce que me dit BGG, ça va peut-être changer. Donc voilà, je vous refais un peu la petite fiche signalétique. Donc, jeu de Julien et Tom Proutière, qui resteront au scénario, scénarisé par eux. Jeu, le système, je sais pas qui l'a imaginé, parce que c'est E2. Scénario, en tout cas, E2, pour les 3 boîtes disponibles d'ici décembre, normalement. Enfin, c'est pas une boîte, la démo, mais voilà. Pour les 3 scénarios, en tout cas. Illustré ici par Tom Proutière, mais chaque boîte a un illustrateur ou une illustratrice différente. Tom Warchek, c'est la charte graphique, et Lumberjacks, 2 à 4, encore une fois. Faites-moi des retours dans les commentaires si vous avez joué à 3 ou 4, si vous avez des sentiments de jeu différents. Ce scénario, à partir de 12 ans, ça dépendra sûrement des scénarios. Pour moi, les thèmes abordés, je pense qu'on peut le faire plus tôt. Je pense qu'on peut discuter de ces sujets-là avec des enfants de 9-10 ans. Et disons que c'est pas graphiquement que c'est du 12 ans et plus, tu vois. C'est pas de la violence graphique. En tout cas, à mon sens, c'est plus les thématiques abordées. En tout cas, à mon sens, c'est comme ça que je le perçois. Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, voilà. Donc je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Et donc, de 4 fois 30 minutes, en vrai, nous on l'a fait, je pense, en cumulé, ça a dû nous prendre 1h10. Mais ça fait mieux de dire que t'en as pour 2 heures de jeu sur la boîte aussi. Et encore une fois, c'est peut-être dépendant du nombre de joueurs et joueuses. Malheureusement, fabriqué en Chine, non inclusif, sauf dans le truc où on vous dit d'être bienveillant, voilà. Et 15 balles, donc 2 petits jeux à moins de 15 balles, voilà. C'est pas avec ça que vous arriverez à utiliser nos codes, pas avec juste ces 2 jeux, en tout cas les codes de la caverne de proxy jeux. Voilà donc pour Fil Rouge, 2 points, l'ombre du tigre.
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i, et jeu avec un X. Vous pouvez également nous contacter sur X, anciennement Twitter, sur Facebook, Instagram, Blue Sky, Mastodon, mais également sur Discord. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Laissez-nous des commentaires et surtout, parlez de nous autour de vous. Si vous avez aimé ce qu'on fait, vous pouvez nous aider financièrement. Pour ça, vous pouvez passer par PayPal ou par un virement bancaire à l'association.
Le mois prochain, vous retrouverez un nouveau duo dans l'émission des Jeux du Mois. Ce sera les Jeux du Mois de novembre. La semaine prochaine, le pour et le contre, hein, qui revient, consacré à, je pense qu'on peut le dire, à Kingdom Builder de Donald Vaccarino. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux, que ce soit dans le pour et le contre, dans les Jeux du Mois ou ailleurs. Et en attendant, jouez bien.